Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Hongrie qui avait lieu au Hungaroring à Budapest. Un Grand Prix qui, encore une fois, malgré son statut de tourniquet, nous a offert une course, on va dire, plutôt agitée. Hein. Il y en a un ici d'ailleurs qui est aussi assez agité.
Désolé.
C'est mon cher comparse. Bonjour Dino.
Bonjour Shinji, bonjour tout le monde. Désolé, je viens juste de m'étouffer avec un verre d'eau, mais c'est pas grave. Bienvenue dans les coulisses du SAV.
Alors Dino, toi qui es un amoureux déclaré de cette piste, comment as-tu trouvé ce week-end?
J'étais un peu déçu, parce que j'ai pas suffisamment vu les essais, etc. Mais
Ouais.
Non. Ah, c'est pas le genre de Grand Prix qui permet d'avoir des dépassements, etc. Ça, on le sait très bien.
Non.
On a eu une course typique. On l'avait coupé la dernière fois au montage. Enfin, je l'ai coupé au montage sur la dernière mission. On avait fait une espèce de bilan des dernières années où on avait vu que comme la plupart des circuits, c'est souvent des gens qui se battent pour le championnat et qui gagnent, mais on a souvent eu sur ce circuit-là des courses assez bizarres avec des vainqueurs qu'on qualifiait d'outsiders.
D'une certaine façon, avec Weber, on a eu un peu des deux. À la fois un outsider et à la fois un pilote qui joue le titre. Tout de suite, nous étions le 1er août.
Oui, je le crains.
C'est l'éphéméride.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. c'est pas drôle en fait.
Donc nous étions le dimanche 1er août. Nous étions la Saint-Alphonse. Journée assez chargée en événements, hein. On pourra noter le 1er août 1793, la convention montagnarde adopte le système métrique décimal. À l'époque c'était provisoire. Hein. Hein, donc le mètre représentait 443,44 lignes de la toise du Pérou. Ne me demandez pas ce que c'est qu'une toise du Pérou. Et c'est justement pour ça qu'on a inventé le système métrique. Donc système métrique qui s'est imposé au niveau international, sauf en F1, où vous aurez remarqué dimanche, on a compté en voiture. Donc système métrique aussi qui a permis d'unifier les mesures, puisqu'en France, plus ou moins, chaque région avait son unité de mesure. C'était très galère. En 1830, une autre révolution, c'est la révolution en Belgique contre les Pays-Bas et la fondation de la Belgique, voilà. Qui sera reconnue 9 ans plus tard.
Hein. Et bientôt la destruction de la Belgique.
Autre date importante, même peut-être la plus importante, le 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, c'est le début de la Première Guerre mondiale.
Après l'assassinat de...
De l'archiduc.
Oui.
François-Joseph.
Par...
À Sarajevo.
Par...
Mais ne me demande pas le nom de l'assassin.
Par principe.
Sinon, le 1er août 1991, c'était la suppression de la première classe dans le métro parisien.
Il y avait des... Oh la vache.
Parce qu'on est jeune. Et oui, jusqu'en 91, il y avait une première et une seconde classe dans le métro, ce qui paraît un peu dingue aujourd'hui, mais voilà. Maintenant, c'est classe unique, comme on dit.
Ouais.
Les naissances. En 1744, c'était la naissance de Jean-Baptiste Lamarck, naturaliste français, qui est un des inventeurs du terme biologie et un des premiers à avoir proposé une théorie de l'évolution des espèces. C'est aussi la naissance, en 1930, de Pierre Bourdieu, très célèbre sociologue français. Et il fait « Ah, parce que là, c'est les souvenirs de fac !» Le 1er août 1936, c'est aussi la naissance de Yves Saint-Laurent, qui nous a quittés
il n'y a pas longtemps.
Il est aussi très célèbre français, connu dans le monde entier. Parmi les célébrations, alors pas de fête internationale cette semaine non plus, mais c'est la fête nationale en Suisse le 1er août, qui commémore alors l'alliance entre les cantons d'Uri, Schwyz, d'ailleurs qui a donné un Schweiz, hein, ouais. Et de l'Unterwald. Alors la signature n'a pas eu lieu exactement le 1er août, hein, ça s'est passé pendant le mois d'août, mais les Suisses ont choisi le 1er août.
Ah, c'est faut savoir que les Suisses sont un petit peu lents à signer les documents, il leur faut 3-4 semaines à peu près, donc voilà.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé donc en F1 ce jour-là? Alors, faut savoir que c'est la première fois que le Grand Prix de Hongrie a lieu un 1er août, hein, puisqu'habituellement le Grand Prix de Hongrie n'a lieu que depuis récemment, début août.
Oui.
Puisqu'avant, il avait lieu plutôt mi-août, mais comme maintenant, il y a la pause, il a lieu début août. Et donc, c'est une date qui est plutôt associée au Grand Prix d'Allemagne.
Oui.
Il y a eu pas moins de 5 Grands Prix d'Allemagne qui ont eu lieu le 1er août. En 1954, 1965, 1971, 1999, et surtout en 1976. Et pourquoi je dis « et surtout » Parce que c'est la fameuse date. C'est le dernier Grand Prix qui a eu lieu au Nürburgring, sur le Nordschleife. Et donc, vous savez, si c'est la dernière course, c'est la date du fameux accident de Niki Lauda, un des faits marquants les plus importants peut-être de l'histoire de la F1. Hein,
oui.
Plus marquant. Et donc, cette semaine, pour l'éphéméride, on va revenir sur ce monument de la F1.
Ah.
L'enfer vert. Alors, tu sais qui c'est qui l'a nommé l'enfer vert?
Pas.
C'est Jackie Stewart. Alors, on va revenir un peu beaucoup en chiffres dans l'histoire de cette piste. Donc, c'est une piste qui a été construite en 1927. Alors, est-ce que tu as une idée du nombre de virages, déjà?
Je dirais 70, 73.
Oui, tu es plus ou moins proche, on va dire, puisque à 100 près, tu es proche. Alors, dans sa première configuration, puisqu'on va revenir après hein, sur les modifications qu'il y a eu, il faisait 174 virages.
Hein. Oui, bon, bah...
Alors, tu as une idée de la longueur de la piste originelle?
Originelle?
Oui, parce qu'il y a eu des modifications, mais oui, l'originelle, on va dire, celle où d'ailleurs il y a eu les Grands Prix de F1. Au kilomètre près.
21, 22?
Pas mal. Alors, 22 km 810. Donc,
d'ailleurs, vous trouverez sur YouTube assez facilement la vidéo de... D'ailleurs, je crois même qu'on l'avait mis sur le site, la vidéo de... Je crois que c'est Nick Heidfeld qui avait fait le tour du Nürburgring avec la BMW.
Je vais y revenir, d'ailleurs. Donc, 22 km 810 à l'origine. Le circuit a été changé. Alors, il y a une petite modification en 1967, donc on connut les F1, avec l'ajout d'une chicane qui l'a porté à 22 km 835.
Ce que j'aime bien, c'est que la chicane, on peut même pas vous dire où elle se trouve, en fait.
Elle est avant la ligne droite des stands. Ils ont ajouté une chicane.
Ah, d'accord. Ah oui, c'est le fameux. Ah, d'accord, je vois. Ah, bon, là, on peut vous expliquer, là.
Voilà. Tu vois, parce que
Oui, je vais vous...
Virtuellement, tu connais
la piste. Vous avez une énorme ligne droite, avant les stands, et vous avez effectivement une espèce de une chicane, même une grosse chicane, juste avant l'entrée des stands et la petite ligne droite des stands, c'est très petit. Hein, c'est... À côté, le Hungaroring, c'est un boulevard.
Et aussi, une modification en 1971, alors plus globale, n'a pas vraiment changé la distance, nouveau revêtement, certaines bosses rabotées, et on a réduit à 160 virages seulement. Donc, c'est une piste qui a quand même accueilli 22 Grands Prix d'Allemagne, de 1951 à 1976. En 1951, c'est la première victoire d'Ascari. En 52, Ascari était titré sur le Nürburgring, un an plus tard. En 1957, Fangio y remportait son cinquième titre. En 63, John Surtees gagnait pour la première fois. Et d'ailleurs, il faudra qu'il attende un an pour gagner une deuxième fois, aussi sur le Nürburgring. En 65, c'est le deuxième titre pour Clark. En 1975, c'est le premier podium pour Jacques Lafitte. Deuxième place. Eh oui.
Il a fait des podiums.
Il a fait des podiums. Et donc, en 1976, c'est pas vraiment le résultat qui compte, mais bien évidemment, cet accident dramatique qui a eu lieu. Alors, faut resituer le contexte. On est en 76. Lauda domine la saison. Le Grand Prix d'Allemagne, c'est la 10e épreuve à l'heure du championnat. Il compte 31 points d'avance sur Jody Scheckter et 35 sur James Hunt. Alors, faut savoir, c'est funeste, on peut dire, c'est que Niki Lauda a voulu boycotter la course, justement pour des questions de sécurité. Et c'est parce que les autres pilotes, en fait, ne l'ont pas suivi, qu'il a pris part à la course. Donc, il est parti en pneu pluie. Lauda s'arrête dans les stands à l'issue de la première boucle, c'est-à-dire au bout de 8 minutes.
Pour bah, mi-course, je m'arrête au premier tour.
Donc, pour chausser des pneus slick, et repart donc dans le ventre mou du peloton, parce qu'en plus, ça reste quand même le début, donc évidemment, il a dû perdre beaucoup de place. Dans son deuxième tour, dans le gauche précédant le virage de Bergwerk, ne me demandez pas lequel c'est, hein, il y en a 160. Hein.
Je suis au bout, à fond, à droite.
Alors, pour une raison, d'ailleurs, qu'on n'a jamais vraiment expliquée, parce que bon, Lauda qui perd le contrôle de sa voiture, c'est comme Jim Clark qui a un accident, quoi.
Ça arrive rarement, mais quand ça arrive...
Voilà. Il perd le contrôle de sa voiture qui va frapper l'extérieur de la piste avant de rebondir en plein milieu de la trajectoire où elle est percutée par d'autres concurrents. lancer bien évidemment à pleine vitesse. Vous imaginez un peu le carnage. Hein. Alors dès le choc initial, le casque de Loda a été arraché et sa voiture s'est embrasée, puisque c'est surtout ça hein, ce qui s'est passé lors de l'accident, c'est l'embrasement de la voiture. À moitié inconscient, et alors qu'il est prisonnier des flammes, Loda est tiré de sa voiture par Arturo Merzario, qu'il faut saluer, puisqu'il lui a sans doute sauvé, il lui a sauvé la vie hein, ce jour-là, aidé de ses collègues Brett Lunger, Guy Edwards et Harald Hert. Alors, bien évidemment, hein, brûlure extrêmement conséquente pour Loda. Vous le savez, il a même reçu l'extrême onction hein, à l'hôpital. D'ailleurs, les médecins étaient plus inquiets, pas tellement sur les brûlures, mais sur la fumée qu'avait pu ingérer Loda pendant l'incident. Et malgré tout, bah, il va s'en sortir. Et on peut penser cette année hein, à Rossi qui revient quelques semaines oui. après. Hein, et bah, c'est un peu dans le même ordre d'idée. Il est revenu 6 semaines plus tard au Grand Prix d'Italie, sachant qu'il est pilote Ferrari oui. à l'époque, c'est pas anodin. Hein, il revient en faisant une 4e place. Mais il gagnera pas le titre. Et d'ailleurs, faut noter que c'est l'année donc où le titre s'est joué à Fuji, dans des conditions très brumeuses, comme d'habitude à Fuji. Et que cette fois-ci, Loda, qui avait des doutes pour la sécurité, bah cette fois-ci, il va pas se laisser influencer par les autres. Ouais. Il va renoncer à participer à cette course et c'est ce qui va lui coûter le titre.
Enzo Ferrari en aurait beaucoup voulu et que ça aurait signé de là de la carrière de...
Chez Ferrari.
Il s'est vengé en revenant chez McLaren.
Alors, est-ce que tu as une idée du temps en tour que faisaient les F1 alors en 1951 quand on est arrivé pour la première fois
1951.
C'était donc, juste en dessous en fait d'une minute pile.
11 minutes peut-être, 11-12 minutes.
Alors on était déjà sous les 10 minutes parce que la pole d'Ascari était en 9 minutes 55 8 dixièmes sur une Ferrari 375. Et alors ce qui est très drôle, c'est que si on prend les paliers par minute hein, parce que pour un circuit comme ça, faut prendre les paliers par minute.
Ouais.
La barrière des 9 minutes elle a été battue en 61 par Phil Hill, donc sur Ferrari aussi,
oui.
sur une Ferrari 156. En 68, Chris Amon, lors de test pneumatique, fait le tour en 7 minutes 57.8 sur Ferrari. Et, c'est peut-être ça en plus le plus cocasse, c'est qu'en 75, bah c'est Niki Lauda, donc sur
Ferrari,
qui marque le record absolu de la piste dans sa configuration 22 km8 en 6 minutes 58 et 6 dixièmes.
Et ben.
Donc bien évidemment après 76 on a abandonné la piste. D'ailleurs on peut penser que même sans l'accident de Loda hein, c'est quand même pas une piste vraiment adaptée aux F1 modernes. Malgré tout en 82 hein, la piste a été profondément remaniée. Alors quand je dis profondément remaniée, c'est que on a enlevé 2 km. Ça veut donc dire que la piste faisait quand même 20 km, fait encore 20 km 800 dans oui. sa configuration actuelle. Et on a encore réduit un peu les virages, où on est passé à 154 virages seulement. Wow. Donc la Nordschleife est toujours utilisée pour de nombreux événements, comme notamment les 1000 km. Non, pas les 1000 km, c'est les 24 heures du Nürburgring. Il y a beaucoup d'autres événements de courses nationales qui ont lieu. Cette piste a aussi s'est découvert une nouvelle vocation, puisque c'est devenu un peu le rendez-vous incontournable pour toutes les voitures de grosses cylindrées. Ils montent leurs coronesses, et comment on monte ces coronesses? Bah, on les montre en faisant un tour du Nürburgring.
Oui.
En se confrontant, aux autres supercars. Donc, ils y sont tous passés, hein. Nissan GT-R, Pagani's Honda. Donc, sur cette configuration actuelle, hein, 20 km 800, les records. Alors, en compétition, c'est Stéphane Beloff, en mai 83, en 6 minutes 11, 13, sur une Porsche 956. Pour une fois, c'est sur une Ferrari. Et donc pour une voiture hors compétition, actuellement le record est détenu par la Pagani's Honda R, alors boosté, préparé, tout ce que vous voulez, le 29 juin 2010 en 6 minutes 47 et 50 et 5 dixièmes. Alors à noter, tu t'en as parlé un tout petit peu au début quand j'en ai parlé, c'est qu'une F1 a roulé de nouveau sur cette piste, c'était en avril 2007, c'était BMW, donc exactement le modèle F1-06 avec Nick Heidfeld, alors c'était pour une publicité, sur une piste de 24 km, donc en plus c'est pas évident de comparer au niveau des temps, oui. parce que c'est pas exactement la même piste. Alors, ils ont donné des temps d'environ 7 minutes 20, sachant que la voiture n'avait pas été préparée pour faire de la haute vitesse, au contraire, ils ont fait tout pour finalement la voiture passe très lentement pour ne pas risquer la vie de Nick Heidfeld tout simplement. Oui. Alors bien évidemment quand ils ont fait ça, il y a beaucoup d'analystes qui ont se posé la question, mais si une F1 roulait à fond sur la piste, combien elle ferait? Alors on pense qu'une F1 moderne peut passer la barrière des 6 minutes.
Ce serait énorme.
Mais là je pense que c'est les ingénieurs de BMW qui se la pètent. dans un F1 Racing qui datait du juin 2006, donc ça doit être dans l'édition anglaise, hein, les ingénieurs BMW, ils ont même dit que la F106, elle pourrait faire le tour de la piste en 5 minutes 15 à une moyenne de 237 km/h.
Oui, pourquoi pas.
Ah, c'est une extrapolation des ingénieurs BMW. Hein. Et à noter pour terminer hein, sur cette piste, c'est que c'est une piste extrêmement dangereuse. Je vous ai dit que la piste avait 73 ans. Hein. Mmh. Et ben, il y a à peu près eu 70 morts quand même sur cette piste, dont le dernier date de 2010. Hein. Donc c'est pas malgré toutes les améliorations qui ont été faites, ça reste une piste quand même extrêmement dangereuse pour ses pilotes et aussi pour les accompagnateurs, les commissaires de piste. Donc j'en ai fini pour le Nordschleife. Juste avant de passer à la suite, je voulais quand même dire que le 1er août a quand même été marqué par le décès de deux pilotes français de talent. En 1959, c'est Jean Béra. D'ailleurs, pour l'anecdote, faut savoir qu'en 1961, on a donné son nom à une piste construite à Manicourt, puisque à l'origine, c'était la piste Jean Béra, avant d'être dénommée lorsqu'on a reconstruit la piste pour la F1, ce qui est bien dommage, puisqu'on aurait peut-être pu garder le nom quand même. Et en 1980, ça a même été cité ce week-end par Jean-Louis Moncey, c'était Patrick Depailler qui nous quittait, et le destin funeste fait que bah, justement ces deux personnes nous ont quittés en Allemagne. Donc voilà, c'était tout pour l'éphémérite. Donc c'était un peu triste, hein, parce que bon, mais...
Oui, je t'avouerais qu'il allait me pendre.
Donc après l'éphémérite, après le passé, on va passer à aujourd'hui, et même à demain, puisque oui. C'est le JT du SAV. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT du SAV daté du 3 août. Tout de suite, sans transition, les news. Alors Dino, on va partir tout de suite du côté de Maranello.
Oui, on va partir du côté de Maranello, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la semaine qui s'est écoulée entre le Grand Prix d'Allemagne et le Grand Prix de Hongrie a été essentiellement agitée par Ferrari, qui a suscité la polémique. Alors... On le sait maintenant, la date a été fixée après plusieurs rumeurs qui annonçaient le 10 septembre comme date avec une séance qui aurait lieu en Italie, ce qui faisait bondir la plupart des gens en disant « Mais c'est quoi cette justice ?» Même si ça se serait fait en Italie quelques jours avant le Grand Prix d'Italie, ce qui aurait été potentiellement une source de pression supplémentaire sur la Scuderia. La séance aura donc lieu le 8 septembre, ce sera un mardi si je ne me trompe pas, le mardi juste avant le Grand Prix d'Italie, et elle sera dirigée par Graham Stoker, président délégué au sport de la FIA, et non par Jean Todt, puisqu'on sait qu'il y avait ce petit conflit d'intérêt entre Jean Todt et la Scuderia, d'abord parce que Jean Todt a appliqué ce genre de méthode par le passé, et ensuite parce que il dirige la FIA après avoir dirigé Ferrari. On reviendra pas sur les déclarations puisqu'elles ont été extrêmement nombreuses, beaucoup condamnant et puis peu à peu au fur et à mesure de la semaine les langues se sont un peu déliées. On sait que Ferrari a déjà été pénalisé d'une amende de $100,000. Voilà, est-ce qu'il y aura quelque chose de plus ou est-ce qu'au contraire on assistera à une séance qui sera le procès de non pas Ferrari mais de la règle du principe même d'interdiction des consignes de course. Réponse donc le 8 septembre à Paris.
Très bien, alors. Puisqu'on parle des rouges, faut forcément qu'on parle des gris.
Oui, effectivement, en direction Woking où les gris sont dans le rouge, puisque l'on a appris cette semaine que McLaren avait emprunté 48 millions d'euros. Alors, on en a très rapidement déduit que c'était pour des dettes. Bon, ce qui n'est pas forcément faux. On le sait très bien que la situation de McLaren cette année a évolué, puisque d'abord McLaren s'est désolidarisé de Mercedes en tant qu'écurie, et qu'en plus McLaren a aussi décidé de se lancer véritablement sur le marché de la voiture de sport et de super tourisme. Et donc, c'est à la fois quelque chose pour compenser les dettes acquises dans ce processus de transformation de l'entreprise, mais c'est aussi pour investir sur des chaînes de montage, investir sur des projets. Donc voilà.
On fait un petit point sur les transferts.
Oui, un tout petit point sur les transferts, puisque on va d'abord parler d'Adrian Sutil, qui est donné comme futur pilote Force India, puisqu'il devrait re-signer chez Force India, même si, dans une interview récemment, il a déclaré qu'il était intéressé par le deuxième paquet de chez Renault. Tout dépendra bien évidemment, comme on l'a vu ce week-end, des résultats et de la performance sur la fin de saison de Vitaly Petrov. Toujours du côté des transferts, on aura une petite pensée émue pour Nelson Piquet Jr. qui ne reviendra pas en F1, ainsi que pour Jonathan Summerton qui... Après ne pas être venu en 2009, ne viendra sans doute pas en 2011, puisque effectivement on a appris que le projet américain Cypher, qui était un projet qui récupérait quelques ingénieurs et quelques personnalités du SF1 qui avait essayé de remonter un projet américain pour 2011. Le projet Cypher a avorté et que les deux pilotes, le brésilien et l'américain, étaient donnés en pole position pour leur baquer la saison prochaine.
Et maintenant, on va parler vacances.
Oui, on va parler vacances. Alors, on va pas parler des vacances des pilotes, même si on peut quand même vous informer que Jenson Button, le champion du monde en titre, participera au triathlon de Londres. Il y avait déjà participé l'an dernier, donc il y reparticipera cette année. C'est ce qu'il va faire pour ses vacances. Voilà, il y a des pilotes comme ça qui Kimi Räikkönen lui passait 3 semaines sur son yacht. Eh ben non, Button, faut qu'il bosse encore. Plus sérieusement, les vacances, c'est surtout les vacances des écuries, on le sait, depuis quelques 2 ou 3 ans, je crois. Les écuries sont dans l'obligation de fermer leurs usines pour une durée de 3 semaines. Vous savez que d'ici au prochain Grand Prix de Hongrie, il y aura 4 semaines, donc certaines ont déjà fermé. C'est le cas de Lotus, de Mercedes, de Williams, de Sauber et de McLaren qui ont déjà fermé. Et donc, ils s'arrogent le droit de rouvrir quelques jours avant le Grand Prix de Belgique pour faire quelques pièces, etc. pour le Grand Prix. Et d'autres qui vont fermer soit mercredi, c'est le cas de HRT. Bon, on vient d'apprendre que HRT avait une usine. C'est le cas aussi de Virgin qui fermera samedi, de Ferrari et Toro Rosso qui fermeront dimanche. Et ceux qui vont aller le plus loin, c'est Red Bull, Renault et Force India qui fermeront eux lundi. Là encore une fois, on voit la stratégie des équipes entre celles qui vont d'abord bien réfléchir à leurs innovations parce qu'elles sont peut-être un petit peu en retard. On pense à Mercedes et McLaren pour peut-être travailler quelques petits trucs avant le Grand Prix. Puis ceux qui sont déjà un petit peu plus sûrs de leurs acquis et qui vont dans leur direction et se donnent pas le temps de la réflexion. Puisqu'on sait très bien que malgré la fermeture, Adrian Newey, Pat Fry et compagnie vont bien évidemment emmener leur laptop avec eux à la maison ou au Baléares et qui vont travailler d'arrache-pied pour ce Grand Prix de Belgique.
Tu as une petite actu high-tech pour nous.
Oui, une petite actu high-tech pour vous et surtout pour Shinji, puisque Shinji, tu vas être content, puisque la fameuse application de Formule 1 proposée par Soft Power, disponible sur iPhone et iPad, sera désormais disponible sur Android.
On parle bien de l'appli qui coûte super cher et qui est très moche.
Voilà. Bon, là, Shinji, t'es en train de chercher.
Eh bien, je vous annonce que l'application est bien sur Android, qu'elle coûte 14,99 €.
Oh la vache.
Tu vois, à la rigueur, ça coûterait 2 ou 3 livres, mais 15 livres...
Disons que ça fait beaucoup de pages, quoi.
Ouais.
Désolé.
quelques infos en vrac ?
Oui, quelques infos en vrac, et tout d'abord, nous allons commencer avec le carnet rose de la semaine, puisque Giancarlo Fisichella, ancien pilote Jordan, ancien pilote Sauber, ancien pilote Force India, ancien pilote
Renault.
Ferrari et Renault, et actuel, le troisième pilote Ferrari, et pilote Ferrari en endurance. Et là, il a été papa pour la troisième fois avec sa femme Luna, pas sa maîtresse, d'une petite fille qui s'appelle Carolina. Et donc, nous en avions entendu parler. La plus belle fille du paddock a été désignée par les 24 pilotes de Formule 1. Et il faut savoir, oh fierté, c'est que non seulement elle est française, mais en plus, elle travaille sur un média français.
J'ai envie de dire aussi qu'elle est colombienne.
Elle est un peu colombienne, c'est vrai. Et en plus, elle sort avec un Français, puisque c'est Marion Juliès.
Oh, ça dépend quand il est nul et il est suisse.
C'est vrai. À savoir que quand même, dans ce petit sondage, nous avons un des, c'est les 24 pilotes qui ont été amenés à se prononcer, donc ils ont voté Marion Juliès, et il y a un des pilotes qui a voté Nico Rosberg, comme étant la plus jolie fille du paddock. Alors bon, ça n'a pas été le seul suffrage qui a été fait, puisque Fernando Alonso a été désigné comme le meilleur pilote actuel par ses pairs. Hamilton a été, lui, élu comme étant le plus agressif. Et sans surprise, Ayrton Senna a été élu comme étant le meilleur pilote de tous les temps. À noter que Monaco, dont tu parlais la dernière fois, Shinji, est lui resté et restera sans doute toujours comme étant le circuit le plus dangereux. Mais en même temps, on s'en fout, puisque c'est Monaco.
Ouais. Peut-être des citations, des déclarations à nous donner.
Oui, deux petites déclarations. On va essayer de faire que tu les devines, Shinji. Qui a dit « Je trouve énervant que mes pilotes disent « J'aurais voulu être devant ». Cela donne l'impression que nous leur mettons à disposition des voitures qu'ils ne sont pas capables de gagner.
Ouais, donc c'est un directeur d'équipe.
D'une certaine manière.
Ah, c'est Helmut Marko ?
Non.
Luca di Montezemolo?
Non. Son alter ego, Gris.
Ah, c'est Ron Dennis?
C'est Ron Dennis qui a rouspété contre Button et Hamilton et qui a expliqué aux médias que si les McLaren étaient moins rapides, c'est qu'elles le sont plus en course. Alors, il se murmure, hein, au sein de McLaren, parce que, bon, il y a eu la déclaration de Ron Dennis qui a rouspété contre ses pilotes, mais il y a aussi eu la réponse de Wismarsh, qui a dit que lui préférait avoir des pilotes francs et honnêtes qui disent la vérité, et il se murmure que le torchon brûlerait un petit peu entre Ron Dennis et Martin Wismarsh, et qu'on pourrait assister au grand retour de Ron Dennis, qui a, comme je le disais un peu plus tôt, qui a mis en place toute la future gamme de McLaren, et que comme Martin Wismarsh est plus un gestionnaire, on l'enverrait lui par contre du côté de McLaren Automotive pour justement gérer la mise en place des nouveaux modèles de McLaren et des routières. Voilà. Donc c'est des rumeurs qui courent. Voilà. Une deuxième et dernière citation qui a déclaré Shinji: arrêtez les rotatives, les miracles peuvent se produire.
C'est un journaliste?
Aujourd'hui, il officie un peu comme journaliste.
C'est un ancien pilote qui est commentateur, peut-être? Ça pourrait être qui? Eddie Jordan?
Non.
C'est au Royaume-Uni?
Oui.
David Coulthard?
Oui, David Coulthard, à propos de... À quel propos pourrait-il dire arrêtez les rotatives, les miracles peuvent se produire?
Je sais pas, il a voulu taper sur les doigts des journaux qui ont, je sais pas, qui étaient des critiques?
Non, au contraire, c'est sa réaction suite aux excuses de Michael Schumacher après sa blague. Il a dit, oula, arrêtez, il s'est excusé, il faut arrêter pour faire des flash infos, les
c'est vrai. Hein, c'est tellement rare.
Il a dit ça sous le ton de la plaisanterie, mais il a dit qu'en tout cas, si enfin il prenait conscience et il s'excusait de ses manœuvres, indirectement ça le rétablissait tout de même un petit peu, lui qui pendant longtemps a snobé les gens et n'a jamais rien regretté de ce qu'il avait fait.
Écoute, il a peut-être atteint l'âge de la maturité. Hein. Alors, as-tu une actu qui passe inaperçue cette semaine?
Oui, bien sûr. Tu crois quoi?
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actu qui passe inaperçue. Youhou! L'actu! Où es-tu?
Alors, Shinji, petite question, dont je suis un petit peu allé au-delà de la simple question actu, et je voulais savoir, Shinji, quelle était la particularité du pilote hongrois Norbert Michelis?
Il est handicapé?
Non.
C'est pas le plus connu des pilotes hongrois.
Disons qu'il n'y en a pas beaucoup.
Non, il n'y en a pas beaucoup. Il est sous contrat avec une des équipes de F1?
Non.
Il a roulé ce week-end?
Il a roulé ce week-end.
D'accord. Il roule en GP2?
Non.
En AutoGP?
Non.
En Porsche Carrera Cup?
Non.
C'était sur le week-end de Grand Prix? Hein.
Non.
D'accord. Il roule en voiture au moins?
Oui.
Il a roulé en rallye?
Non.
En monoplace?
Non.
Donc c'est du tourisme?
Oui. Je peux même te le dire, il est engagé cette année en WTCC.
D'accord, mais il n'y avait pas de WTCC ce week-end.
Oui, à...
À Brno.
Un circuit magnifique d'ailleurs, que Brno, je rêve de voir
en République tchèque. Il a fait quelque chose qu'il distingue.
Et il a fait quelque chose qu'il distingue, oui.
D'accord, mais pas forcément ce week-end.
Pas forcément ce week-end, c'est au tout début de sa carrière.
Non, là, j'ai besoin d'un indice, là.
Alors, par certains côtés, il a connu le même destin que certains joueurs de poker.
D'accord. Qu'est-ce qu'il y a au poker? Il y a des équipes de joueurs créées par des... Non, c'est pas ça, d'accord. Bon, les sponsors personnels, ça... Mais il est comme des joueurs de poker qui gagnent ou il est comme des joueurs de poker qui perdent?
Disons que la comparaison aux joueurs de poker, c'est que depuis quelques années, il y a un phénomène qui traverse le poker, qui permet de voir apparaître des joueurs qu'on n'aurait sans doute pas vus dans du très haut niveau. Et lui, c'est un peu le même cas. C'est-à-dire que c'est un pilote qu'on n'aurait sans doute pas vu en sport automobile, ça n'y avait pas les moyens. Et pourtant, il a réussi un peu à la manière d'un joueur de poker.
C'est par rapport à Internet?
C'est par rapport à Internet, oui.
Mais le truc, c'est que je vois pas comment quelqu'un peut, je sais pas, juste...
Sur cette saison, par exemple, que ce soit moi, Dino, que ce soit Globen, on aurait très bien pu avoir la carrière de Norbert Michelis. Bon, Sato Kamikaze, on ne saura jamais puisque on l'a pas encore vu.
Il a montré son talent en... Enfin, Bah, au lieu de pointer chez les équipes en disant oui je suis bon,
ouais.
Il a montré qu'il était bon, mais en montrant des images de lui sur des jeux vidéo.
Et voilà, c'est un pilote qui a été recruté à partir de simulations de course. Puisque c'est un pilote effectivement qui était passionné, donc il est né en 84, le 8 août, donc s'il écoute cette émission dans les prochains jours, nous lui souhaitons d'avance un bon anniversaire, en espérant qu'il parle le français. C'est un passionné de sport automobile, mais malheureusement il n'avait pas le budget pour faire carrière, et donc il s'est tourné vers les championnats de courses de simulation en ligne et championnats du monde, et il s'est fait une bonne réputation sur la scène internationale, au point de côtoyer des pilotes, dont un pilote qui s'appelle Gabor Weber, avec un seul B, pas comme l'Australien, un pilote anglais engagé en Clio Cup Hongrie, et qui, quand il l'a vu devant les simulations, parce que lui aussi faisait un peu de simulation apparemment, quand il l'a vu, s'est dit toi, faudrait que tu viennes faire un test. Donc ce Weber a réussi à convaincre son équipe de tester de tester Michelis. Il a bien fonctionné, donc on lui a donné sa chance. On lui a donné sa chance en Clio Cup Hongrie, puis dans un nouveau championnat qui a été créé en 2006, la Suzuki Swift Cup, dont il est sorti vainqueur et champion à la fin de l'année, avec 6 victoires en 13 Grands Prix. En 2007, il remporte la Clio Cup en Hongrie. Il va ensuite passer en Seat Leon Cup et en Seat Leon Euro Cup l'année suivante. Il va pas forcément faire de gros résultats, il se rôde un petit peu, c'est le niveau monte. En 2009, il va devenir champion de Seat Leon Eurocup, et il va terminer en même temps troisième du championnat ETC, donc European Tourist Car, et il va intégrer pour deux courses le championnat WTCC, championnat du monde, l'un des trois championnats du monde automobile, géré par la FIA. Et Michelis, justement, participe au championnat WTCC 2010 avec une équipe privée hongroise qui est équipée d'une Seat Leon bleue, d'ailleurs vous pourrez la remarquer, hein, elle est bleue lors des courses. Il est 11e au championnat avec 34 points, donc assez loin des leaders, mais sur une équipe privée et pas forcément la première des écuries privées. Et il est deuxième au classement rookie avec 73 points. Son meilleur résultat cette saison, c'est une 6e place à Zolder. Et ce week-end, donc je le disais un peu plus tôt, il a fait un week-end blanc. Donc voilà, c'est l'espoir pour certains pilotes qui n'ont pas forcément le budget de pouvoir percer en faisant des démonstrations.
Après, bon, les recruteurs et directeurs d'équipe sont pas forcément encore de la génération jeux vidéo.
Voilà.
Bon, pour l'instant, ça devrait rester rare, je pense.
Bah, disons que là, on le voit, ça se fait entre joueurs. Alors que l'analogie au poker, c'est qu'effectivement, il commence à y avoir au poker une grande vague dans les grands tournois de poker. Ouais. Une grande vague de joueurs venus d'internet, des joueurs qui avaient pas forcément un très haut niveau et qui par internet, et ça a posé des questions notamment au poker, ça a posé des questions de est-ce que ça ne change pas la nature de jouer, est-ce que ce profil de joueur qui n'est pas habitué par exemple à bluffer, etc., est-ce que ça en fait pas des joueurs plus agressifs qui tentent tout, et est-ce que le parallélisme vaut en sport auto, est-ce que les pilotes qui viendraient par le biais de la simulation ne seraient pas des pilotes plus agressifs, moins conscients des dangers, etc. Donc voilà, voilà.
Très bien. Bah, espérons, hein, peut-être qu'il y ait d'autres cas à l'avenir, ça serait quand même, c'est intéressant.
C'est une filière à suivre dans les prochaines années, pas systématisée, mais ça peut être un biais pour recruter des pilotes en Formule 2 ou...
Ouais, voilà, pour avoir des essais sur des petites filières, hein, mais évidemment... On va passer à la qualif.
Oui. Oh, la qualif.
Alors, à la place du con...
Tout le monde, sauf les Red Bull.
Plus sérieusement, entre guillemets, eh bien, c'est un pilote qui, on peut le dire déjà, s'est quand même bien rattrapé.
Oui. Disons qu'on n'a même pas envie de dire qu'il est à la place du con, quoi.
Voilà. Le pauvre Kamui Kobayashi, qui était 23e sur la grille, qui s'est qualifié 18e. Mais, vous l'avez vu, hein. Alors moi déjà ce que j'ai pas compris c'est pourquoi le feu était au rouge alors qu'on était quand même au moment où les voitures rentrent toutes de toute façon.
En fait c'est un feu rouge qui rappelle aux pilotes qu'ils doivent s'arrêter à un autre endroit que ce cas où le mec serait pas au courant à la fin de la qualif que ouais tu t'arrêtes pas dans ton stand.
Et on l'a vu hein, il est passé devant, il y avait les gens de la FIA qui l'attendaient gentiment, qui garent sa voiture et il ne l'a pas fait.
Et ben non.
Et boum, 5 places de pénalité.
Ça coûte cher.
Et puis c'est vrai que de l'autre côté de la grille, on pourrait presque dire que, comme tu l'as dit, il y a presque 22 places du coup. Parce que autant en Allemagne, mais alors on a eu un truc génial, 2 millième. Et là, Et là, on a Sébastien Vettel a fait son tour en 1.18773, Marc Webber en 1.1984.
On est déjà 4 dixièmes.
Déjà 4 dixièmes, hein, c'est déjà pas mal.
Entre deux coéquipiers.
Et donc, on a quand même une seconde deux entre Sébastien Vettel et Fernando Alonso. Et là, franchement, c'était monstrueux. C'est vrai que la Hongrie, c'est pas forcément le circuit le plus typique de la saison. Mais là, il y a de quoi te désespérer, quoi.
Je pense que l'aisance qu'a la Red Bull sur les courbes, etc. Lui donne peut-être un avantage. C'est vrai que c'est un circuit très, très roulant et très tournant. Et je pense que cette voiture, elle est tout simplement parfaite pour ce type de circuit.
Donc, la course est donc le top 10.
Oui. On peut déjà remercier tous ceux qui nous ont envoyé des mails. Donc, on va déjà citer Sato Kamikaze, Bûcher, Fab007, Stefcore, Globen, Maël, Bilo et un nouveau Shogun971 qui participe pour la première fois à l'émission. Et nous souhaitons bienvenue. On vous remercie tous de
bienvenue et merci. Donc, comme d'habitude, on va commencer par ceux qui ont été cités mais qui sont pas dans le classement. Et cette semaine, il n'y a qu'un pilote.
Ah bah, lequel?
Eh bien, c'est Lewis Hamilton que Dino, tu as mis dixième.
Oui, moi j'ai mis Hamilton dixième malgré son abandon. D'ailleurs, Bilo aussi l'a mis dixième en précisant.
Transparent, pas bon au départ, mais a dominé Button jusqu'à cette casse mécanique. C'est bien, il commence à connaître les abandons, son problème mécanique.
Non, moi je l'ai mis parce qu'il a fait un bon départ. Vraiment un bon départ, je trouve. Au contraire de Bilo, je trouve qu'il a fait un bon départ en partant du côté propre de la piste. Il a été obligé de ralentir parce qu'il a vu ce qui se passait devant. Et je pense qu'il a préféré reculer, ralentir, être prudent sur le premier virage, pourquoi pas récupérer avec opportunisme les pots cassés. Il se trouve que au passage il s'est fait doubler par Petrov, mais qu'il a réussi à se dédoubler et que il a aussi profité de la safety car pour passer devant Massa, qui a perdu un petit peu de temps au stand à cause du double ravitaillement. Voilà, donc il aurait pu faire une belle course et je pense que la lutte pour la quatrième place avec Massa aurait pu être assez sympathique si lutte il y avait eu, bien sûr. Oui. Donc, à noter tout de même qu'on a nos auditeurs qui ont donné d'autres pilotes. Alors, on a Sato Kamikaze qui nous a mis Kovalainen en dixième, pour la simple et bonne raison que...
C'était le premier des petits et le quatorzième grâce à tous les abandons.
Nous avons Globen qui, lui, nous a mis Bruno Senna devant une Virgin, ce qui est un petit exploit selon lui. Nous avons Stefcore qui a salué la performance de Robert Kubica.
Bien que battu en essai par son coéquipier, il a fait un bon week-end et son début de course gâché par l'erreur de l'homme à la sucette lui aurait permis un très bon résultat, mais cette bêtise prive Renault d'un doublé dans les points.
On peut revenir quand même sur Kubica et ce qui s'est passé dans les stands.
Est-ce qu'on a ce mot de l'histoire? Parce que est-ce que c'est l'homme à la sucette qui a vraiment fait une boulette ou est-ce que c'est l'homme à la sucette qui est effrayé par la roue, s'est un petit peu dégagé et que Kubica a mal interprété ce mouvement?
Pour l'instant, moi non plus, j'ai pas vu le fin mot de l'histoire. C'est vrai que si ça s'est passé, parce qu'on a bien vu que ça s'est passé au même moment que le truc du pneu, hein, et on a bien vu le pneu rebondir quand même pas très loin, Renault a eu une amende comme Mercedes. Mais pour le coup, c'est vrai que l'erreur de l'homme à la sucette, c'est juste pour avoir voulu se protéger d'un pneu qui rebondissait à haute vitesse. Pour le coup, même si 50 000 $, hein, c'est pas non plus énorme. Si c'est cette cause-là, je trouve ça un peu sévère.
C'est un discours de la part de la FIA qui est limite inquiétant, en tout cas sur le cas Renault, puisque effectivement, si c'est à cause du pneu, on peut pas pénaliser une écurie parce que les mécanos ont eu peur.
La conséquence est malheureuse, mais bon, voilà. Oui. À noter que d'ailleurs, il y a eu un mécano Williams qui a été touché par le pneu, mais qui va bien.
Oui. Et donc il y a un autre pilote qui n'a pas été cité dans les classements, enfin. Dans le classement final,
c'est le pilote Mercedes, qui a beaucoup fait parler de lui.
Pas celui qui est arrivé deuxième dans le classement de la plus belle fille du paddock, l'autre.
Celui qui aime les murs, et surtout qui aime les Brésiliens contre les murs, c'est bien évidemment Michael Schumacher.
Alors, Michael Schumacher, dont on a deux réactions écrites et une réaction audio, on va d'abord parler de Fab007 qui l'a placé dixième, tout de même, et qui nous dit:
quelle résistance, c'est dangereux certes, mais pour quelqu'un que l'on dit démotivé, ça reste une course relativement honnête, ponctuée par une défense de la dixième place, de façon hargneuse.
On a Shogun971 qui nous dit:
belle remontée et une belle manœuvre pour défendre sa position, sans le souci de Rosberg, il aurait fini plus haut sans pouvoir être menacé.
Après l'avoir mis donc à la huitième place. Et donc on a une réaction audio de Sato Kamikaze.
Je voulais revenir sur le coup de tute de Schumacher, qui est pas foutu de se laisser passer par un mec qui est beaucoup beaucoup plus rapide que lui. Alors que pas, c'est que pour la 10e place quoi. C'est pas, c'est bon, mais c'est pas comme si c'était un podium. Voilà, je trouve ça un peu abusé quand même de se battre comme un chien juste pour une 10e place quoi. Ça montre juste à quel point il est désespéré. Voilà.
Bah, qui se défende comme un dingue, c'est après tout c'est ce qu'on demande au pilote de F1. Ça c'est normal. Mais là, tout est une question de limite.
Oui, voilà.
Et là, pour le coup, il a un peu dépassé justement cette limite. Mm. Parce que dans l'intention, quand même, ce qui s'est passé aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Ça a été cité dans des commentaires. Il y en a eu qui est comparé avec Weber et Massa. Bah, c'est toi, Dino. Hein? Je sais plus à quel grand prix c'était.
C'était au grand prix de Fuji en 2008, je crois.
Bon, Massa avait pas frôlé d'aussi près le mur, hein, je crois pas.
Sur le fond, c'est d'ailleurs ce qu'a été la réaction de, d'ailleurs, j'ai pas trop compris la réaction de Steph Corr. Et d'ailleurs, même dans le commentaire, je suis un peu choqué par ce que dit Sato Kamikaze. Steph Corr, tout en condamnant, ce que je comprends bien, tout en condamnant les deux incidents, laisser sous-entendre que bon, Massa avait pris quand même le risque de se mettre à l'intérieur, etc., ce qui n'était pas le cas de Barrichello. Donc grosso modo, la manière dont c'est un petit peu, dont la manière dont moi je l'interprète, c'est que entre guillemets, Weber avait des petites circonstances atténuantes, là où Schumacher n'en aurait aucune. Pour moi, le fondement de cette manœuvre, peu importe le reste, c'est qu'il y a une intention. L'intention, c'est de bloquer un pilote contre un mur à haute vitesse. Que ce soit que le pilote de derrière s'engage ou pas. À la vitesse où ça va, c'est dans des quarts de seconde. D'ailleurs, je crois que c'est Ross Brawn qui a réagi en disant oui, mais il y avait 10 cm de chaque côté. Et je crois que c'est David Coulthard ou c'est un autre pilote, un autre ancien pilote qui a dit faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. 10 cm à la vitesse où les mecs vont, les 10 cm, ils les voient même pas.
Et quand on voit les photos, on a vraiment l'impression qu'ils frottent le mur. Hein.
C'est d'une dangerosité, et que ce soit Weber, Schumacher ou Ayrton Senna. On se rappelle de l'incident à Suzuka en 90, je crois, qui donne à Senna le titre, où l'incident était tout aussi méprisable, et où, si je me souviens bien, Steph Corr avait dit que ça, c'était un incident qu'il avait fâché avec Ayrton Senna. Il n'y a pas de degré. C'est une intention qui est derrière. C'est l'intention, c'est de clairement menacer
le foutre dans le mur.
C'est soit tu recules, soit je te fous dans le mur. Et ce genre de comportement doit être sévèrement puni. Maintenant, quand j'entends par exemple Sato Kamikaze qui dit faire ça pour une 10e place, à la limite ça aurait été pour un podium, c'est la même histoire que les consignes qu'on a eues la dernière fois. Je trouve ça un petit peu... pourquoi ça serait plus justifié de foutre un pilote dans le mur pour un podium, pour une victoire ou pour la conquête d'un titre? Ce qu'a fait Ayrton Senna en 90 à Suzuka n'est en rien plus pardonnable que ce qu'a fait Schumacher pour une 10e place. Il n'y a pas une position, il n'y a pas un statut de pilote qui autorise tout d'un coup à se mettre soi-même et les autres en danger, le public en danger, en plus là on est dans la ligne droite, pourquoi pas les stewards en danger, il n'y a rien qui le justifie. Et voilà, ça doit être sévèrement puni, même si je trouve quand même que derrière cette histoire, on réagit beaucoup au fait que c'est Michael Schumacher. Je pense que les antécédents de Michael Schumacher font beaucoup dans l'indignation générale. Et
bah, en comparaison, on peut le dire, hein, Weber et Massa, enfin, je veux dire, là, actuellement, on parle encore de ce qui s'est passé dimanche.
Oui, voilà. Alors,
Marc Weber, sur le coup, on a dit « Ouais, c'est pas bien », et puis voilà, on est passé à autre chose.
Et c'est vrai que je pense, ça, c'est pas du tout pour excuser Schumacher, mais je pense que, voilà, c'est sûr que si c'est pour faire ça qu'il est revenu, Michael, ça sert à rien, qu'il retourne chez lui. Moi, je c'est ce que je craignais, moi, je voulais finir sur, avoir la dernière image de Michael Schumacher, c'était son Grand Prix du Brésil 2006. Voilà, c'était une sortie de champion. Si c'est revenir pour nous faire ça et foutre son ancien coéquipier, son ancien ami entre guillemets dans le mur, c'est pas la peine. Quand j'entends Warwick dire oui, moi au départ je voulais plutôt qu'il soit exclu de la course avec drapeau noir, oui, ça doit être fait automatiquement.
Bah, fais-le.
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, pourquoi il n'y a plus ces drapeaux noirs quand un pilote fait une action antisportive comme ça? C'est même, pour moi, c'est même plus grave encore que l'affaire des consignes. Quand un pilote fait ce genre de manœuvre en piste, on doit lui présenter automatiquement le drapeau noir. C'est mise en danger d'autrui. On peut saluer la volonté de défendre sa place, mais comme tu l'as dit, Shinji, il y a des limites. Et là, je pense que la limite, elle est dépassée, parce que il y a véritablement une mise en danger.
Ok. Donc c'est tout hein, pour les pilotes cités par les auditeurs. On va passer au classement.
Oui, au vrai de vrai.
En 10e place. C'est le pilote anglais Jenson Button que j'ai mis 10e, hein, et que les auditeurs aussi ont mis 10e.
Oui.
Alors, Button. Jacques Buchor l'a mis dixième. Hein. Il a fait ce qu'il a pu sur ce Grand Prix où il n'était clairement pas au mieux.
Oui. On a Maël aussi qui l'a mis dixième en disant parce qu'il fallait un dixième.
Bah moi je suis comme Maël. Hein. Voilà, il fallait un dixième, j'ai mis Button. Globen, cinquième, oui. Il l'a mis. Pour une fois, on l'a presque pas vu. C'est vrai, on l'a pas beaucoup vu. Mais il a fait une bonne course en gagnant quelques places. Et sinon, Fab 007 l'a mis 7e, parti 11e, fini 8e. Course discrète mais plutôt efficace, McLaren est quand même en difficulté.
Oui, en comptant les abandons devant lui, oublie de ça, ce petit
Hamilton. Hamilton.
Et effectivement, 11e à 8e, il a gagné des places.
À la 9e place, une équipe qui commence à être habituée hein, du classement, c'est les Sauber.
Oh.
Hein, et c'est De La Rosa qui est 9e. Alors, De La Rosa qui a été mis 9e par moi, 9e par toi, et les auditeurs l'ont carrément mis 8e.
Alors, dans le détail, on a Buchor qui nous dit sur De La Rosa qu'il l'a mis 8e et qu'il avait un bon rythme. On a Shogun971 qui l'a mis 10e. Les deux Sauber dans le top 10, cela a le mérite d'être rare pour être signalé. On a Steph Core qui nous dit « J'aurais pu le mettre plus haut, mais je ne tenais à mettre les jeunes à l'honneur. Depuis quelques courses, il est pour moi un pilote coup de cœur qui performe vraiment fort. » Ne serait-ce pas un talent oublié de la F1?
Peut-être.
Et c'est pas une course d'attaquant qu'il a fait quand on regarde par rapport à Kobayashi. Il fait pas une course d'attaquant.
De La Rosa, en fait, c'est un très bon deuxième pilote.
Voilà, il fait une course d'expérience. Voilà, oui, il a suffisamment de talent pour partir, je crois qu'il part 9e et être dans les points. Voilà, il a suffisamment de talent pour ce genre de choses, oui. Maintenant, est-ce que de là à être un espoir oublié, l'avenir nous le dira, est-ce qu'il sera recruté chez Renault ou je sais pas qui. Alors ensuite on a Globen, Maël et Bilo qui l'ont mis chacun 7e. Globen qui nous dit une bonne course avec une arrivée dans les points, ça fait plaisir pour Sauber. Maël qui nous dit tout simplement les deux Sauber dans les points. Et Bilo qui nous dit très bonne qualif qui lui permet de réussir une bonne course et de devancer enfin Kobayashi. À noter, et on garde le meilleur pour la fin, la remarque de Fab007 qui nous dit il nous prouve qu'on peut bien avoir la Sauber, l'argent de la Sauber et le cul de la crémière. Et ça fait longtemps qu'il rêvait de placer ce jeu de mots, hein. Et qui ponctue en disant belle course pour le vieux. Et enfin on a Sato Kamikaze qui nous dit premier point de la saison en Q3, meilleur que Kobayashi, course solide, rien d'autre à dire. Et d'ailleurs, commentaire de Sato Kamikaze, est-ce qu'on pourrait ponctuer avec un petit extrait audio qu'il nous a envoyé où il parle de Sauber?
Salut Shinji, salut Tino. Voilà, je voulais vous envoyer un message pour déjà pour tester mon micro. Et aussi pour féliciter les Sauber qui étaient au fond du trou du cul hein, en début de saison. Ils arrivaient même pas à, ils arrivaient à peine à devancer les petites équipes. C'était la grosse déception de la saison. Et là, ils sont revenus, ils sont dans le top 10. Ils sont, on va dire, sont presque devant les Mercedes, hein, quasiment. Bah, ils sont devant les Mercedes, même. Enfin, non, ils sont devant Schumacher. Voilà. Et, surtout De La Rosa, parce que De La Rosa, en fait, on le voit presque jamais, vu que Kobayashi, il vole un peu la vedette. Et là, pour une fois, c'est De La Rosa qui a fait une meilleure course que lui. Voilà, je voulais juste revenir dessus.
Eh bien, merci Sato Kamikaze.
C'est vrai que Sauber, c'est quand même des ingénieurs d'une expérience incroyable. Hein. Ça fait près de 20 ans qu'ils sont en F1. Et c'est vrai que ils ont eu le coup. Souvent, on dit, voilà, il y a une évolution. Bon, bah, soit on va dans la bonne direction, soit c'est la mauvaise. Et souvent, quand c'est la mauvaise, on perd plusieurs grands prix. Parce qu'il faut rattraper le retard. Ce qui est en train d'arriver un peu avec McLaren.
Ce qui est arrivé un peu plus tôt à Ferrari. Hein.
Ce qui est à Ferrari, ça va, ils ont pu repartir dans le bon sens.
Bah, et on voit que ça voilà, ils sont revenus et ce qui arrive depuis le début de la saison en Mercedes.
Voilà. Et McLaren, c'est le contraire. On a l'impression que là, c'est en train de, avec ce problème du diffuseur soufflé, ça va, je sais pas comment ça va se passer à la fin de saison, mais bon.
Bah, ils attendent le produit miracle, le nouveau composant français qui permet de pas faire fondre le diffuseur.
Et Sauber, voilà. C'est vrai que la voiture est, pas très bonne, même elle ne finissait pas les courses. Déjà, il y a eu la résolution des problèmes du moteur Ferrari. C'était pas que de leur faute à Sauber. Et oui, il y a eu les évolutions. Il y a eu leur F-duct. Je sais pas s'ils ont le diffuseur soufflé chez Sauber.
Non.
Non. Mais en tout cas, voilà, ils ont mis des évolutions et pour l'instant, bah à chaque fois, ça a été dans le bon sens.
Aussi se rappeler du contexte du retour de Sauber. Tout le monde a dit ils arrivent avec la BMW. Faut quand même se rappeler que BMW, ils quittent le navire au mois d'août dernier. Donc grosso modo, Sauber, qui n'avait pas forcément pu, puisqu'il ne savait pas s'ils allaient continuer le championnat, ils sont arrivés en Espagne lors des essais hivernaux, avec la voiture, à son état de développement du mois de juillet-août. Ils n'avaient pas forcément eu le temps de faire plus. Donc ils sont arrivés à un stade de développement avec encore une énorme marge. Plus, c'est peut-être une chance pour eux, parce qu'ils ont commencé à la finir, cette voiture, au moment où sont apparues des nouveautés. Pas encore le diffuseur soufflé, mais le F-Duct, ce genre de petites nouveautés, ils ont pu finir leur voiture en incorporant dès la conception les nouveautés apportées par les autres équipes, ce qui fait qu'aujourd'hui que ça paye, même si ça a été très très dur sur les 6 ou 7 premières courses.
On passe à la 8ème place.
Bah, à moins que j'ai quelque chose à dire sur
non, juste ça.
Moi j'ai juste mis résiste à Button, mais est-ce vraiment une référence sur cette course?
Oh.
Mais j'adore Button, voilà, mais pas sur cette course.
À la 8ème place, il revenait sur les terres, là où il y a eu son tragique accident. On espérait quand même un peu mieux, tu sais, on aime bien les belles histoires.
N'est pas coupé de ça qui veut, hein.
C'est donc Felipe Massa, qui est 8ème, que j'ai mis 8ème, que Dino, tu as mis 7ème, oui. Et que les auditeurs ont mis 6ème. Alors, si je vois pour Massa, alors Sato Kemkaz l'a mis 9ème. On ne l'a pas vu de la course et j'ai hésité à mettre Sato pour rigoler. Donc bon, Massa, c'est juste parce que je ne voyais pas qui mettre. Pourtant, il finit quatrième quand même, faut pas l'oublier. Buchors, septième. Il part quatrième, il arrive quatrième. Rien de plus à dire. Shogun 971, deuxième course dans les points, mais il est là où on l'attendait. Une course transparente, il n'a pas su élever son niveau pour mettre Vettel derrière lui. Son matériel est pour beaucoup dans sa position, mais je le place 9ème car il n'a pas su en tirer la quintessence.
C'est vrai.
Steph Corr l'a mis 3ème.
N'importe quoi.
Après un début de saison très difficile et une série de malchances.
Il va me fâcher, Steph Corr.
Le voici qui revient au plus haut dans les classements et donne la preuve de son talent. Et qui doit sûrement être dans la frustration permanente face à son coéquipier, la petite pleureuse de l'équipe italienne.
Non mais honnêtement, je suis désolé Steph Corr, mais comment est-ce que tu peux mettre Massa 3ème et mettre là où je sais, on le dira plus tard, Alonso à la place où tu l'as mis. Je comprends même pas comment tu as pu mettre un tel gouffre entre les deux pilotes. C'est voilà. Alors après oui, c'est une question de ressenti, c'est une question de la manière dont on a vu la course. Voilà, mais c'est encore une fois, je me rappelle de discussions où on parlait d'Hamilton et où tu regrettais que beaucoup d'auditeurs déjugent Hamilton pour son comportement et pas vraiment pour ses performances. Et là, tu fais pareil avec Alonso et je trouve ça regrettable parce que bah, indirectement, ça en décrédibilise ton propos.
Alors Fab 007 ne l'a pas mis dans son top 10, mais il nous dit qu'il a trouvé Massa inconsistant, le moins bon des quatre qui ont pourtant une voiture au-dessus du lot, même si la RBR est meilleure que la Ferrari. Maël l'a mis quatrième, course discrète mais engrange des points pour l'équipe. C'est vrai, non? En longtemps, il était derrière, non seulement il était derrière Alonso, mais il engrangeait peu de points.
Oui.
Et c'est, faut bien le dire, c'est ces points qu'il n'a pas eu qui risquent, qui fait que Ferrari a quand même beaucoup de retard au championnat constructeur.
Oui, et puis c'est aussi ça qui le place dans cette situation du Grand Prix d'Allemagne, hein, faut être honnête.
Oui, Bilot l'a mis 5ème, transparent, peut-être prudent inconsciemment par rapport à 2009.
Oui, moi j'y crois pas trop.
Mais il est mieux qu'en début de saison.
Ouais. On peut aussi noter le commentaire de Globen qui l'a mis 6ème et qui nous dit lui aussi transparent, il assure sa position tout au long de la course. Voilà. C'est vrai que malheureusement, il y a les trois fusées devant, je dirais.
Ouais, oui.
Parce que même Alonso était tout en étant largué dans le rythme par les Red Bull, était le seul homme à pouvoir résister vraiment face aux Red Bull. Et en même temps, il avait, parce que la Ferrari a un regain de forme, il avait une certaine avance, surtout débarrassé de Lewis Hamilton. Il avait une avance sur le reste du peloton en étant débarrassé d'Hamilton, de Kubica, de Rosberg. Ça donne un avantage quand même et ça le met dans une situation de confort. Après l'affaire de comment ça s'appelle, l'affaire d'Hockenheim, la moindre des choses, vu qu'il a pas fait preuve de d'autorité d'autorité à Hockenheim, la moindre des choses, c'était faire preuve d'autorité là, en Hongrie,
oui.
Surtout un an après son accident, alors que là il a été insipide. Voilà, donc après il peut pas se contenter.
Et malgré tout, ça reste une quatrième place.
Oui, mais avec la deuxième meilleure voiture du plateau qui,
voilà,
déjà elle mettait un gouffre face à ses rivales et qui, même si elle prenait un gouffre face au Red Bull, elle mettait un gouffre aux autres. Donc voilà, il va vraiment falloir qu'il fasse quelque chose pour se sortir de ce statut de numéro 2, plutôt que de parler dans la presse et demander à son père de le défendre. En fait, tu l'avais mis combien, Shinji?
Moi je l'avais mis 8ème. Je l'ai mis quand même très très bas, même si je l'aurais pas mis non plus 9e, 10e. Hein, oui. Parce que ça reste une 4e place et qui méritait quand même d'être dans le classement du top 10. Après, c'est vrai que la course a été tellement discrète que difficile de le mettre plus haut. Et puis, d'autres, même derrière lui, ont été plus impressionnants.
C'est toujours la même problématique. C'est que des fois, il y a des pilotes qui ne méritent pas la place qu'on leur donne. Mais voilà, le fait est que on a mis d'autres devant qui méritent peut-être plus d'être promus. Quoi.
Il y en a qui ont peu de points qui sont bons, mais qui ont peu de points parce que ceux qui sont devant n'ont pas été bons. Ils ont été très bons, voire excellents.
Alors justement, qui avons-nous devant?
Alors devant, nous avons un pilote Williams, mais c'est l'Allemand, c'est l'incroyable Hülkenberg. Alors moi-même, je l'ai mis 7e, hein, tout simplement. Toi, Dino, tu l'as mis 8e, et les auditeurs l'ont quand même mis 5e.
Dans le détail, alors si on regarde les auditeurs dans le détail, on a Sato Kamikaze qui nous le place 8e. On n'a pas vu de la course, mais il est dans le top 8, il progresse bien. On a Buchor qui le met 6e, bonne course, solide. Steph Kaur, pareil, le met 6e. Je n'étais pas un grand fan de ce pilote en GP2 et lui préférais Petrov. Et je pensais qu'il s'acclimaterait mal en Formule 1, parce que le début de saison a eu tendance peut-être à donner raison.
Ouais.
Et je dois reconnaître que je suis impressionné de par son adaptation et par le comportement correct qui est le sien en Formule 1. Très belle course de sa part. On a Shogun 971 qui dit « Rien à dire, sa prestation à l'arrivée, une 6e place devant son illustre coéquipier parle pour lui. Encore un champion de GP2 qui confirme. » On a Maël qui nous l'a mis simplement 6e sans donner plus de commentaires. On a Bilo, toujours 6e. Très bon week-end, toujours devant son coéquipier avec une Williams revigorée. Il n'y avait pas de raison pour qu'il ne décroche pas ce bon résultat. Et enfin, le meilleur résultat de Hülkenberg a été donné par Fab007 qui nous le place en 5e position. Encore un rookie qui confirme et démontre le regain de forme incroyable des Williams. Oui, c'est ça, c'est d'abord il bénéficie du regain de forme des Williams, mais lui-même confirme.
Ah oui, oui, par rapport à son début de saison où c'était difficile, on voit que ça s'améliore de course en course.
Ouais.
Chose à rajouter sur Hülkenberg?
Non, mais encore une fois, on constatera quand même encore une course entre Petrov et Hülkenberg. Voilà, les deux commencent à se rencontrer et le challenge des rookies commence à être intéressant. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent malheureusement en Formule 1, on voit pas vraiment de rivalité de débutants parce que bon, et, souvent on débute dans des domaines différents, enfin dans des écuries différentes où c'est vraiment des différents qui ont des niveaux. Mais là, on retrouve les deux pilotes qui se sont battus pour le titre GP2 en 2009. On les retrouve dans des écuries qui aujourd'hui ont à peu près le même niveau. La Williams, on peut dire qu'aujourd'hui elle est arrivée à peu près au niveau de la Renault. Ça commence à être régulier.
On voit sur les classements du SAV. Je parlais de Sauber, hein, qu'on voyait de plus en plus souvent, c'est pareil pour Williams. Hein.
Oui.
Là, par contre, ceux qui sont de moins en moins, bah, c'est Mercedes et puis aussi Force India. Attention, puisque nous avons nos traditionnels.
Oh non, nos ex-aequo en 5e place, c'est ça?
Et oui, donc 5e ex-aequo, ils auront tous les deux 10 points. Et justement, je parlais de Sauber et de Williams.
Ah.
Eh bien, son 5e ex-aequo, Kobayashi, et aussi 5e, l'autre pilote Williams, qui je pense a eu un gros up par rapport à ce qui s'est passé.
Disons qu'à 10 tours de la fin, il n'était pas en 5e place, quoi.
Voilà. C'est Barrichello. Commençons par Kobayashi.
Oui, bon, c'est sans doute celui sur lequel on aura peut-être le moins de choses à dire.
Alors, Sato Kamikaze l'a mis 7e. C'est bien simple, il a résumé hein, tout ce qu'il y a à dire. De 23e à la 10e place.
What else?
Même s'il a profité du grabu dans les stands, c'est toujours sympa de le voir dans le top 10. Bah, en même temps, il a terminé la course, hein.
Ouais.
Faut le faire, déjà. Buchor l'a mis 5e. Une belle remontée comme on les aime. Fab007 l'a mis 8e. Belle remontée. Ce pilote est vraiment intéressant. C'est vrai quand même que depuis son arrivée, il a su nous charmer quand même, ouais. Kobayashi. Shogun971 l'a mis 5e. Awesome Kobayashi. Parti de la 23e place. Un superbe départ. Une bonne stratégie. Good job.
Oh, Shinji, you speak English very well.
Steph Kaur l'a mis 5e. Parti 23e. Il réalise un plus 14. Place à l'arrivée. Une superbe remontée. Avec une F1 plutôt performante. Il lui faut un bon volant pour la saison prochaine. Peut-être le second baquet Renault, hein, qui sait. Rosberg ne serait pas intéressé pour avoir un vrai coéquipier. LOL.
C'est une deuxième piste. Ouais, après, c'est évidemment.
Globen l'a mis 8e. Une bonne course avec une arrivée dans les points. Ça fait plaisir pour Sauber. Ouais. Maël 9e. Belle course pour les Sauber. Bilo 8e. Très bonne remontée. Même si la safety car l'a bien aidé, la Sauber va mieux et ce pilote peut reprendre les merveilles qu'il avait effectuées à la fin 2009.
Ouais.
C'est vrai qu'il a un gros potentiel quand même. Et donc, en 5e place ex-aequo avec Kobayashi, il y avait Barrichello.
Oui.
Donc, qu'en fait, nous deux, hein, on est un peu uppés, entre guillemets.
Oui, en mettant 5e. Disons voilà. On lui permet d'être ex-aequo avec Kobayashi. Oui, parce que si on regarde les commentaires de nos auditeurs, le meilleur, celui qui l'a le mieux placé, c'est Sato Kamikas, qui le place comme nous en cinquième position, en disant « Quel sublime dépassement sur Michael Schumacher et très jolie course, méritait amplement une dixième place. » C'est vrai. Ensuite, nous avons Shogun971 qui le place 7e et qui nous dit « Il a eu les coronesses pour poursuivre son dépassement. Joli. Surtout sur un circuit où ces derniers ne sont pas évidents. Il a été aidé par son matériel. » Il faut rappeler qu'effectivement, Barrichello avait des pneus neufs là où... D'ailleurs, c'est de la manière dont Schumacher s'est défendu en disant « Oui, bon, il m'a dépassé, mais il avait des pneus neufs. Moi, j'avais des vieux pneus, etc. » Non, t'étais vieux, c'est tout. il a été donc aidé par son matériel, mais sa pugnacité en fin de course a fait tout le job bien. Ensuite, nous avons Maël qui nous met 8e en disant « Beau dépassement sur Schumacher, malgré la manœuvre de ce dernier. » En 9e position, il a été placé par Buchor, par Barrichello. Barrichello a voté par Fab007. Donc, il a été placé 9e par Buchor, Fab007, par Globen et par Bilot. Buchor qui nous dit bonne course, comme il sait les faire. Couillu de ne pas avoir cédé pour dépasser Michael Schumacher. On a Fab007 qui nous dit, alors là, je dis monsieur, il fallait être couillu pour dépasser dans le trou laissé par Schumi. On a Globen qui nous dit, toujours là pour sa 18e saison, il a su éviter l'accident de justesse tout en menant à bien son dépassement, bravo. On a Bilot, enfin, qui nous dit course difficile, dommage qu'il soit parti en dur, car sinon à 6e place, lui était assuré. Reste que son dépassement sur Schumi était fabuleux et l'occasion pour lui de prendre une petite revanche. Et enfin, on a Steph Cork qui ne le met que 10e. Une course juste correcte, mais le fait d'avoir survécu au comportement débile de Schumacher lui vaut ce point. Je pense que c'est vrai aussi le fait que nous on l'ait mis 5e et que les auditeurs l'aient peut-être un petit peu mis en retrait, c'est que en tout cas moi personnellement j'ai mis 5e aussi parce que il a quand même une stratégie pourrie où il est parti avec des pneus durs, où il a donc dû garder ses pneus durs, il est resté comme Weber avec la safety car, sauf qu'il n'a pas l'avantage qu'a Weber, c'est-à-dire qu'il n'a pas une voiture qui colle une seconde en qualification aux autres derrière. Il a été bien placé, 4e ou 5e je crois, pendant la course, mais malheureusement après son ravitaillement il n'avait pas pris suffisamment d'avance sur les autres pour pouvoir véritablement capitaliser sur ses pneus. Et voilà donc.
Et d'ailleurs, il l'a dit, hein, il l'a dit par rapport à l'événement. Si ça avait été un autre pilote, il aurait peut-être lâché.
Oui.
Mais là. Mais non. c'était parce que c'était Schumacher.
Puis c'est indirectement, on n'a pas eu la compensation de Massa, mais indirectement voir Barrichello faire ça à Schumacher. Moi, déjà, les voir Barrichello dans une Williams, Schumacher dans une Mercedes,
oui,
j'en rêvais pas, mais voir ça en course, ça m'a fait super plaisir, quoi. Je me suis dit, on va pas pouvoir les voir dans un duel, on va pouvoir les voir se battre, ce qui n'était pas forcément le cas chez Ferrari. Et moi, j'avais hâte de voir ça, et j'ai pas été déçu, finalement. On a parlé de la manœuvre de Schumacher, mais c'est une super manœuvre, ce que fait Barrichello, c'est extraordinaire, quoi, la manière dont il attaque, parce qu'il attaque bien, puis la manière aussi dont il se laisse pas faire, c'est bien. La même manière que Massa s'était pas laissé faire face à Weber, là il se laisse pas faire, et comme Massa face à Weber, il gagne la place.
N'empêche que, bon, on fait un classement souvent des jeunes, on fait un classement des nouvelles équipes, on pourrait faire un classement des petits vieux.
Oui.
Et Barrichello serait pas loin de la première place.
Ouais.
Et d'ailleurs, même au vrai classement, il est pas très loin de Schumacher, hein, faut noter.
Mais très très belle progression des Williams qui commence à causer du souci à Force India, je crois qu'à 47.
Ah oui, oui.
Williams en a 40. Force India, faut vite qu'il se réveille parce que si les deux Williams rentrent comme ça régulièrement dans les points, à chaque fois c'est 5-6 points de prix et à ce niveau-là, les 5-6 points sont importants.
Puis eux, ils savent. Je veux dire, Williams, c'est Williams, quoi. Williams, c'est une équipe qui ne sera jamais privée au dépourvu par quelque chose en F1.
Non, bah d'ailleurs, on se rappellera qu'ils avaient le double diffuseur l'an dernier.
Oui, c'est vrai. On passe à la 4e place.
Non, mais qui donc, petite bien-être? Moi, j'ai un petit doute. J'ai longtemps cru au grand chelem. Et non.
Bah écoute, moi, je l'ai mis 4e. Les auditeurs l'ont mis 4e. Et tu l'as mis 4e.
C'est le petit chelem, alors.
C'est Vitaly Petrov qui fait sa meilleure course de la saison.
Oui.
Et qui le fait au bon moment. Qui il a peut-être sauvé sa place.
Qui même au-delà de faire sa meilleure course, fait son meilleur week-end. Il est quand même souvent oublie de ça au qualif. Ça fait plusieurs courses, l'Allemagne, sûr et certain, l'Allemagne, et je crois même la Grande-Bretagne, où il est plus à l'aise avec sa voiture. Il s'était montré plus à l'aise en Allemagne lors des essais libres jusqu'au qualif. Il s'était montré plus à l'aise que Kubica, juste avant que Kubica fasse l'effort pour se mettre devant. Mais il est souvent plus à l'aise en ce moment.
C'est bien. Parce qu'il montre que quand Kubica n'est pas là, bah lui il est là. Et c'est important ça.
Il a montré qu'il pouvait marquer des points en Allemagne et il a répondu à la deuxième exigence de l'équipe, ce qui est être dans les points quand ton leader n'y est pas. Voilà, c'est ce qu'on demande d'un équipier, d'un débutant. On peut pas lui demander plus, lui demander juste d'être dans les points et suppléer son leader quand il faut.
Alors attention par contre, parce que même si la date limite c'était en Hongrie, avec le résultat qu'il a fait ce week-end,
il est pas sauvé.
Tu peux être certain que maintenant l'exigence de Renault c'est que ça se répète.
Ah, c'est le risque, mais en même temps, c'est là aussi peut-être l'intelligence, je pense, de la nouvelle gestion de Renault. On se rappelle quand même de la gestion de Briatore, notamment le comportement face à Grosjean. On a quand même été très exigeant sur Grosjean, au point même de, je pense, le briser au sein de l'équipe, dans un contexte qui n'était pas favorable. La Petrov, on lui a laissé le temps, puis à un moment donné, on lui a dit « attention, t'es débutant ». T'as eu le temps d'apprendre, un peu à l'image de Rosberg, t'as eu le temps d'apprendre, t'as fait des belles performances, ça n'a pas souvent payé, par contre maintenant t'as jusqu'à la Hongrie pour te stabiliser, pour te trouver ton rythme, etc. Et apparemment ça paye, aujourd'hui c'est un bon numéro 2, et moi je l'avais dit plus tôt cette saison, moi je suis convaincu que c'est un pilote qu'on verra pas forcément 15 ou 20 ans en Formule 1,
non.
Ça pas forcément dans une grosse écurie, mais à l'image pourquoi pas d'un Trulli, d'un Fisichella, c'est un pilote qu'on pourrait revoir pendant plusieurs saisons en F1 parce que voilà, il progresse. Et d'ailleurs, son manager dit qu'il est en contact avec, je crois, 5 écuries pour l'année prochaine. Donc il y a quand même fort à penser que même s'il n'est pas chez Renault et même si Renault veut le tenir,
oui.
S'il a les possibilités de piloter pour pourquoi pas Sauber, Force India ou d'autres, peut-être qu'il aura de quoi faire.
Ouais, on peut penser qu'en 2011 il sera là quand même. Donc les auditeurs vis-à-vis Petrov, donc l'ont très bien noté aussi. Sato Kamikaze, donc l'ami quatrième, a très bien réagi face à la pression. Bravo à lui. Et puis surtout, grâce à lui, Kobayashi n'ira pas chez Renault. Je n'aurai donc pas à me déguiser en abeille pour supporter mon pilote préféré.
C'est une petite abeille qui s'appelle Sato Kamikaze.
Bouchard, l'ami quatrième, devant Bob sur la grille. Oui, parce que Bouchard connaît très bien Robert Kubica. Il a démontré une fois de plus qu'il a les épaules pour encaisser la pression et maintenir le rythme. Fab 007, quatrième, il a tout simplement été très bon. Il semble avoir gommé ses petites erreurs du début de saison. Et ça va sans doute lui permettre de faire l'abeille une saison de plus.
Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les abeilles, nos auditeurs?
Faut qu'ils se trouvent un sponsor chez Renault. Ouais.
Un autre sponsor que la banque maison, parce que des,
oui,
il y a assez
Diac,
de la banque maison. Hein.
Diac, ouais. Shogun 971, quatrième, une bonne qualif et il confirme en course en étant le meilleur des autres, hors Red Bull Ferrari. Vraiment pas mal pour un rookie dont le volant est menacé. Et c'est pas encore sûr, hein, faut bien le dire. Hein, Steve Corr, quatrième, de magnifiques essais, un départ qui lui permet de doubler Rosberg et Hamilton, et une course parfaite pour un rookie. Le talent de ce jeune russe se révèle. J'espère que cela durera et créera une émulation saine au sein de Renault pour tirer l'équipe encore plus vers le haut.
En plus, il devient beau, je trouve, Petrov. Il a des beaux cheveux maintenant. On l'a vu sur la grille, il a des beaux cheveux, des cheveux de gosse d'aujourd'hui.
Parce qu'avant, il avait les cheveux très courts.
Oui, et puis il n'était pas forcément super soigné, alors que là, il se gravure de modéise, quoi.
Globen l'a mis troisième. Magnifique week-end, tout le temps devant Kubica, tant en qualif qu'en course. Maël l'a mis cinquième, mérite ses points, il a fait une bonne course et a devancé Kubica durant le week-end. Bilot, quatrième, il semble être un pilote qui réagit sous la pression et face aux critiques. Très bonne qualif, très bon départ, il a même creusé l'écart avec Rosberg au début. Le meilleur des autres, encore une fois, il faut qu'il confirme régulièrement, ce que je disais, jusqu'à la fin de saison et le baquet 2011 sera pour lui. On va passer au podium du classement, dont on se doute tous à peu près de qui il est composé. En troisième place, il a fini sur le podium, bien évidemment. C'est le pilote Ferrari, Alonso. Je peux pas vous décrire exactement que la tête que fait Tino là. C'est une espèce de cri silencieux, vous voyez. Comme s'il a voulu imiter le cri de Munch. Donc, Alonso, que j'ai mis troisième, que les auditeurs ont mis troisième, et que Dino, et vous allez comprendre pourquoi il a fait le cri de Munch, il l'a mis premier.
Ah ouais, fou. Alors, les auditeurs, on va revenir d'abord sur les auditeurs, parce qu'on va revenir sur Sato Kamikaze, qui le met troisième, qui dit « Je le déteste, le mot est faible, mais il fait une bonne course. » Voilà, bon. On va comparer par exemple au commentaire de Steph Core. Oh, je suis vache. Il a tenu le rang, un beau départ, une décision qui lui permet de monter à la deuxième place, mais bon, sans plus d'éclat pour moi, donc une septième place. Voilà. Bouchard, malgré une longue hésitation, je mets Alonso deuxième. Il a réussi à contenir Vettel, même si le circuit ne se prête pas au dépassement.
Ouais.
C'est vrai. Phase 007 qui l'a mis troisième nous dit très bon départ. Il aura réussi à maintenir Weber puis Vettel derrière lui. On a Shogun 971 qui nous le met deuxième. Il a bien résisté aux deux voitures plus rapides que lui pour finir sur la deuxième place. Il a obtenu le meilleur résultat qu'il pouvait attendre. On a ensuite Globen qui nous le met quatrième. Un bon résultat, mais je reparlerai de ce pilote plus tard.
Et fondamentalement, en fait, sa course, c'est ça. Il a résisté aux Red Bull quand les Red Bull étaient derrière lui. Finalement, il n'a pas du tout influé sur les positions des Red Bull.
Non, voilà.
Qui se sont, entre guillemets, démerdées toutes seules pour changer de place.
Oui, voilà. Elles se sont limite donné des petites consignes, tu vois. Mais discrète, genre je m'endors au volant.
Je m'endors, ouais.
On a Maël qui nous dit le seul à pouvoir suivre les Red Bull. Et on
c'est
a
vrai Bilo... que c'était le seul dans le...
Oui, et on a Bilo qui nous dit, en le mettant troisième, il a fait le départ qu'il fallait, mais qui finalement ne lui a servi à rien. Il a profité des soucis de Vettel pour shipper la deuxième place à ce dernier, même s'il a bien résisté au retour de l'Allemand.
Moi, j'ai pas spécialement d'autres choses à rajouter, hein. Comme je t'ai dit, hein, pour moi, c'est surtout, voilà, c'est beau, très beau boulot de résistance face au Red Bull. Le fait qu'il a été dans le rythme des Red Bull, si ça aussi, c'était pas si facile que ça, surtout après ce qui s'est passé en qualif. Après, finalement, bon, sa place, comment dire, sa place a bougé, mais pas vraiment de sa faute.
Oui.
C'est, voilà, il a pas vraiment été acteur de sa position. Il a été, sa place a été une conséquence de ce qui s'est passé chez Red Bull.
Mais moi, c'est pour ça que j'ai mis le premier. Je l'ai mis premier parce que j'en ai un petit peu marre du discours qui veut qu'en Formule 1, j'en ai déjà parlé cette saison, j'en ai vraiment, mais vraiment ras-le-bol qu'on dise qu'en Formule 1, l'attaque c'est mieux que la défense. Voilà. Ce week-end, on a eu un pilote qui, en qualification, a accusé 1,2 seconde de retard sur ses concurrents, qui en course, lorsque Weber était devant lui, avec des pneus durs en fin de vie, alors que Alonso avait des pneus tendres. On va dire entre guillemets frais, s'est pris 20 secondes en une vingtaine de tours, donc se prenait quand même une seconde au tour, qui sur les 5 premiers tours se prenait 8 à 9 dixièmes de seconde par Vettel, et qui malgré tout a résisté sur un circuit certes peu favorable au dépassement, mais où l'écart de performance entre les voitures aurait pu permettre à Vettel et à Weber de dépasser Alonso. Voilà, c'est une course de fin renard, il n'a pas été super flamboyant, mais il a su subir le tour et profiter de sa vitesse de pointe en ligne droite en se disant, voilà, si je suis devant au bout du virage, ben je résiste pendant un tour. Et on le voyait, des trajectoires très propres, parfois il faisait des petits coups qui, moi, m'ont rappelé ces deux courses que j'adore, qui sont les deux Grands Prix de San Marin avec Alonso et Schumacher dans un an, puis la saison après dans l'autre. J'adore ces mecs qui ont cette science pour gêner le pilote derrière lui et qui sait très bien défendre quand il n'a pas la voiture pour attaquer. Et là, il a su défendre. Et cette deuxième place, il l'a pas gagnée aux circonstances. Il l'a gagnée parce qu'il a su la gagner.
Non, puis pour le coup, la deuxième place pour la course au titre, c'est un très très bon résultat pour lui. Hein.
Bah, ça le relance lui, puis ça relance même un petit peu Ferrari.
Surtout, il bénéficie des mauvais résultats de McLaren. Puisque, a priori, on peut penser que pour l'instant, l'objectif de Ferrari, c'est d'abord rattraper McLaren pour ensuite rattraper Red Bull. Mais là, pour l'instant, ils rattrapent McLaren, ça c'est clair.
Et donc, ils ont perdu du terrain sur Red Bull, mais
ils
ont gagné finalement au total, puisque Red Bull n'était pas très très loin d'eux jusque-là. Et ils en reprennent surtout sur McLaren. Et que ce soit pour Red Bull ou pour Ferrari, la bonne opération du week-end, c'est d'être devant les deux McLaren.
Oui, tout à fait.
Qui ne prennent que 4 points.
On passe au deuxième.
Alors, est-ce que ça va être dormeur ou est-ce que ça va être grincheux?
Eh bien, à la deuxième place, c'est notre dormeur préféré, notre vigneron préféré, puisque quand même pour la troisième course de suite, il a quand même vendangé une victoire qui devait lui tomber dans les bras. Je l'ai dit la semaine dernière, hein, c'est le pilote qui aura, si jamais il n'est pas champion du monde, c'est celui qui aura le plus de regrets. Hein.
Ouais.
Donc, je l'ai mis deuxième, les auditeurs l'ont mis deuxième, tu l'as mis troisième.
Ouais, j'étais méchant avec lui. Mais en même temps, et quand Kimi Raikkonen s'endormait au volant, lui, c'était pour gagner. On se rappelle tous du Grand Prix d'Australie 2007, où il avait dit « Ouais, je me suis endormi à un moment donné. » Oui, mais il avait gagné. Alors que la Vettel, il s'endort et finit troisième. Ça m'énerve.
Donc Sato Kemkaz l'a mis deuxième. J'allais le mettre premier, mais je me suis dit qu'il a été trop tendre sur le coup de la safety car. Cependant, je le mets deuxième pour m'avoir fait rêver d'un dépassement sur Alonso et surtout pour l'injustice du drive-through. Bûcher l'a mis troisième, grand perdant de la course, c'est vrai. Enfin, ah oui. Moins que les McLaren, mais c'est vrai.
Bon, disons que les McLaren n'étaient pas en position de marquer de gros points.
Lui, voilà.
Sa position
voilà.
Lui... 25 points sur la course.
Il avait toutes les cartes en main pour gagner. Fab 007, deuxième. Je ne suis pas un grand fan, mais il faut bien reconnaître que le sort s'est abattu sur lui, alors qu'il a été énorme vendredi, samedi et le tiers de la course. Un safety car un peu vite sorti. C'est vrai que, oui, il y avait une pièce. Est-ce que ça méritait carrément un safety car?
Elle était quand même pas loin de la trajectoire. Hein. Je pense aussi que sur la safety car, je pense aussi que le précédent Massa a aussi beaucoup joué. Les gens se sont rappelés de Massa et se sont dit non, là, on met la safety car.
Shogun 971, troisième, superbe début de course, certes avec une voiture au-dessus du niveau, dommage que les caractéristiques du circuit et de la RB6 ne lui aient pas permis de doubler Alonso. Steph Kaur l'a mis deuxième. Ah, s'il avait porté la combinaison rouge, les choses auraient pu être différentes, dit-il avec ironie et une pointe de mauvaise foi. Il était ce week-end sur une autre planète et sa course ne devait être qu'une formalité. Mon seul bémol reste le fait qu'il n'ait pas doublé Alonso, mais désormais le mot gestion prime sur la prise de risque et le panache. Globen l'a mis deuxième, je pensais qu'il avait vraiment aidé Weber, moi aussi, hein. Ce qui est peut-être possible, hein. Après lui il a dit qu'il s'est endormi, mais c'est encore une de ses erreurs de jeunesse, cette fois en tout cas il a réussi son départ. C'est vrai, c'est un bon point à noter. Maël l'a mis premier. Vettel a été très rapide sur l'ensemble du week-end et je pense que ce n'était pas volontaire le fait de laisser de l'espace lors du restart. Bilo l'a mis premier. Ce qu'il a fait en qualif est exceptionnel et il aurait dominé la course sans une pénalité injuste. Cette saison 2010 ne lui réussit décidément pas. C'est clair. En plus, Vettel, c'est cette année, hein, s'il veut être le plus jeune champion du monde de F1.
Oui.
Donc, il y a eu ce restart, hein, et c'est donc 10 longueurs de voiture. Je t'avoue que quand il y a eu le signal en anglais, j'ai pas compris tout de suite.
Même d'ailleurs, les commentateurs au départ ont pensé qu'il avait en fait pas respecté le temps imposé
oui.
Lors de la safety car, etc. Alors j'ai cherché des articles et je vous les ai traduits. Donc. Alors il y a deux infractions. Enfin, il y a une infraction qui est signalée, c'est l'infraction à l'article 40.9 du règlement sportif, qui stipule que la voiture sera déployée, donc la voiture de sécurité, sera déployée jusqu'à ce que le leader et le reste du peloton soient derrière elle. Une fois derrière la safety car, le leader doit rester à moins de 10 longueurs des voitures, donc 10 longueurs de voiture.
En même temps, il n'était pas le leader.
C'est justement ça sur lequel je vais revenir. 10 longueurs de la safety car. Sauf dans la disposition prévue par l'article 40.11, et les autres voitures doivent maintenir la formation la plus serrée possible. Donc, normalement, ce que doivent faire les voitures, c'est que c'est le leader qui guide le rythme. Le leader doit être derrière la safety car, doit être à moins de 10 longueurs. Bon, la notion de 10 longueurs reste une notion chiffrée, mais on sait très bien que 10 longueurs, c'est grosso modo, ça doit être à distance respectable de la voiture. Et que ça doit se maintenir en formation serrée derrière. Voilà. Là, c'est vrai que c'était pas le cas. Weber respectait bien les 10 longueurs, mais derrière, Vettel n'était pas en formation serrée. Ça a été rajouté au règlement en début de saison. Donc c'est même pas par rapport au changement récent du règlement, c'est un changement qui a été introduit en début de saison et qui faisait bien évidemment écho au précédent changement de la safety car où les pilotes se plaignaient qu'il y avait des pilotes intercalés et que ça permettait de faire des écarts. Donc la FIA leur a dit très bien, mais maintenant par contre quand on fait des restarts, vous êtes chacun dans l'ordre du classement réel de la course, il n'y a plus de pilotes intercalés, mais par contre vous devez rester les uns dans les roues des autres. Pour pas qu'il y ait de stratégie d'équipe, de consigne d'équipe, comme quoi tu laisses partir ton coéquipier pour qu'il puisse faire des relais plus rapides et prendre un peu d'avance. Ce qu'on a pensé au départ, on a pensé que c'était volontaire. Et honnêtement, j'aurais préféré que ce soit volontaire plutôt que d'entendre dire « je me suis endormi ». Et donc, dans le règlement de l'article 40.9, il y a une exception qui est proposée, l'exception de l'article 40.11, qui dit « au moment où la safety car s'efface, la première voiture derrière elle dicte le rythme ». Et si nécessaire, laisse plus de 10 voitures d'écart avec elle. C'est là où il y a une interprétation. C'est-à-dire que dans le règlement, il est prévu que le leader de la course, et seulement le leader de la course, puisque c'est lui qui dicte le rythme, le leader de la course peut à ce moment-là décider de laisser 10 voitures d'écart. Le leader, pas le deuxième. On est toujours dans l'application de la règle que le deuxième, le troisième, le quatrième doit rester en formation serrée derrière le premier. Là, vraiment, dans le règlement, il y a vraiment un point de règlement qui stipule, qui dit clairement, contrairement aux consignes où il y a un énorme flou artistique autour de ces consignes, là, il y a vraiment un point de règlement qui dit...
Ah, pour le coup, c'est assez clair, en fait.
Voilà, donc techniquement, Vettel n'était pas le leader de la course, il n'avait donc aucune raison de dicter un rythme différent, il devait suivre le rythme de Weber, et c'est justement, j'irais même plus loin, dans le cadre des consignes de course, c'est justement ce genre d'article qu'il faut mettre. Je pense que c'est pas en faisant un article où on dit les consignes sont interdites, et qui va être facilement contournable, c'est en faisant toute une série de petits articles, en anticipant sur ce que font les équipes, voilà, faut être précis.
Alors après, c'est vrai, t'as souligné le point. Il y a le côté je me suis assoupi.
Oui.
Alors ça, franchement,
ça fait quand même trois courses qu'il s'assoupit en regardant le mec derrière lui quand même.
Pourtant, il paraît que les rétros sont très mauvais sur les F1, donc je vois pas trop à quoi ça. Voilà. Donc oui, en effet, c'est vrai que l'argument de dire je me suis assoupi, j'ai pas fait attention, ça paraît un petit peu gros quand même.
C'est un bon pari qu'ils font Red Bull. Voilà, maintenant malheureusement, ils ont pas lu le règlement. Dans le règlement, c'est stipulé quoi. Il suffit, je vais pas l'interpréter dans un autre sens. Quand on regarde le règlement, voilà, c'est le leader qui dicte le rythme, c'est pas le deuxième. Le deuxième, il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, il doit suivre le leader.
Voilà. N'empêche que si c'était intentionnel, ce qu'on peut imaginer, on note quand même que chez Red Bull, à chaque fois qu'il y a des choses intentionnelles qui sont faites plutôt pour favoriser Vettel, à chaque fois ça finit mal pour Vettel quoi. Non seulement il se tape la mauvaise image, mais en plus ça ne réussit pas, il se prend des pénalités.
Mais malgré tout, il m'a énervé honnêtement. Alors surtout le coup de je me suis endormi, etc. Ça m'a énervé. Mais son comportement, j'adore. Le mec, j'ai eu peur qu'il se prenne un deuxième dress-through pour excès dans la suite.
Ah oui, toi aussi, tu je sais pas, bon, les auditeurs l'ont pas noté, mais alors moi aussi tout à fait. Quand il a fait son drive-through, la première chose qui m'a choqué, je me suis dit. Merde, il va trop vite.
Et je me suis même dit un deuxième truc après, je me suis dit, peut-être qu'il est dans la vitesse, mais ça se trouve, les mecs, quand on voit la caméra, ça se trouve, il y a un point du règlement qui interdit d'avoir moins d'une main sur le volant dans la ligne descente.
Ah, c'est dangereux ce qu'il fait. Oui,
à un moment donné, oui. Il a plus aucune main sur le volant.
Ah oui?
Quand on se rappelle la polémique des F-Duct, pour le coup, c'était extrêmement dangereux parce que ça mettait toute la ligne des stands en danger. Donc,
Là, il était quand même il était là normalement qu'à 100 km/h en ligne droite.
Il était quand même qu'à 100 km/h, tu peux me rappeler ça? Ouais. Qu'à 100 km/h.
Non, mais son passage n'était pas imprévu, je veux dire, les gens savaient qu'il allait passer à ce moment-là. On est bien d'accord.
On l'a plusieurs fois dit cette saison, la ligne des stands, c'est une zone spécifique.
Oui, oui.
Voilà, donc,
Mais c'est vrai que même en relâchant le volant, il relâche le limiteur, forcément. Et c'est vrai que moi-même, j'ai eu la même réaction que toi quand je l'ai vu. J'ai trouvé qu'il allait très vite pour du 100 km/h. Je me suis dit, putain, si en plus il se reprend un deuxième drive-through pour excès de vitesse.
Mais en même temps, tu vois, ça, j'adore quoi. J'adore ce tempérament. J'adore le fait que quand il descend de la voiture, il est tellement énervé qu'on soit obligé de lui dire à la radio, écoute, fais pas de bêtises, hein, d'accord.
Tu fermes ta gueule, tu dirais.
Et que, lui... Il obéisse, il fasse pas l'effort d'aller sourire à tout le monde, mais qu'il se barre, qu'il se cache.
Il va quand même discuter avec le gars de la FIA. Hein.
Mais voilà, c'est ça. Moi j'aime les pilotes qui sont entiers. Et voilà, moi je vois ce genre de comportement, même si je trouve que son comportement était dangereux dans la ligne des stands, même si je trouve que si vraiment il s'est endormi, c'est un gros crétin. J'adore. J'adore ce genre de pilote.
Moi j'ai juste une question. C'est quand est-ce qu'enfin il gagnera une course quoi. Enfin, je veux dire.
En même temps, je suis quand même assez positif parce que malgré ses boulettes depuis trois courses, on peut quand même dire que sur les trois dernières courses, il doit empocher 75 points.
Ah oui.
Donc on peut quand même dire que c'est un petit problème finalement que si ce pilote, il arrive à résoudre là dans les quatre semaines ce petit problème de trop regarder derrière lui, d'être peut-être un petit peu trop réactif et un petit peu trop sensible à son environnement, surtout côté de Weber, peut-être qu'il va devenir une tuerie sur la fin de saison.
Non mais je ne cesse de le répéter, théoriquement, Red Bull et Vettel, normalement, ça doit être une saison monstrueuse pour eux 2010.
Mais c'est ça le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, finalement, c'est peut-être là où c'est le plus grave, c'est que c'est une, finalement une erreur à la con qui semble être totalement de sa faute, et que cette erreur profite, mais de façon magistrale, à Weber, qui a deux victoires de plus que lui, et qui a maintenant 10 points de plus que lui. À un moment critique quand même, hein. Bon, vraiment pour Vettel, il arrive sur des circuits où il a été très bon. Spa, il avait été très bon en dernier. Il va arriver à Monza.
Monza, bien sûr. On peut en profiter pour enchaîner sur Weber justement. Donc qui a fini premier, que j'ai mis premier, que les auditeurs ont mis premier, que toi bien évidemment tu as mis deuxième, parce que tu l'as pas mis premier. Logique. Qu'ont dit les auditeurs sur Weber?
Il fait même pas le petit chelem à cause de moi. Alors les auditeurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Sato Kamikaze l'a mis premier en disant tranquillement mais gagnant. Buchor nous l'a mis premier aussi en disant certes il profite de la pénalité de Vettel, mais elle a su enchaîner les tours de qualif pour se mettre à l'abri d'Alonso. Pour moi c'est du beau boulot, tout à fait d'accord avec ce que dit Buchor. Fab007, il profite des circonstances pour tenter un pari audacieux. Belle victoire avec des séries de tours impressionnantes. Malgré tout, il ne faut pas occulter la chance qui a été un allié de taille pour le grand Marc. Shogun 971 qui le met premier, superbe course, il est évident qu'il disposait d'un matériel supérieur mais il a fait le boulot qu'on attendait de lui. Steph Core premier toujours, il bénéficie de la pénalité dont l'officieux numéro 1 de Red Bull fut la victime, mais Weber est allé chercher la victoire en effectuant 40 tours avec le même train de pneus et en réalisant de très beaux chronos, une vraie course de vainqueur. C'est vrai qu'il a été extrêmement constant dans ses chronos avec des pneus
très beaux. Très bon choix sur les pneus, ne pas ravitailler lors de la safety car. Non, très bon
Ils
choix.
Ont bien misé sur la performance de la voiture. Nous avons Globen qui le met premier. Malgré son départ moyen, il a fait la course parfaite sur les 69 autres tours, en allant chercher quand il fallait et en profitant au maximum de l'avantage de sa voiture. On a Maël qui l'a mis premier. Weber a fait une belle course en creusant l'écart pour son ravitaillement. Et enfin, nous avons Bilot qui se distingue en mettant Weber deuxième, puisqu'il a mis Vettel premier, je crois. Dominé en qualif, il s'est cependant bien rattrapé en course, cravachant avec des pneus usés pour mettre à distance non seulement Fernando Alonso, mais aussi Sébastien Vettel. Au final, son succès est chanceux avec la pénalité de Vettel, mais il fallait être là pour en profiter et ne pas laisser Alonso gagner. Bah, qui résume bien la situation, je trouve.
C'est vrai que sur le départ, il part deuxième, hein. Ouais. En plus, il y a ça, hein. On sait que c'est horrible, quoi. Enfin. Voilà, vaut mieux être troisième que deuxième.
On se rappelle, je crois que c'est à Silverstone où il avait dit, vous savez, je vais peut-être aller demander à Fernando s'il veut pas échanger sa troisième place avec moi. Je pense que là, il aurait adoré que Fernando lui dise, ouais, on échange. Je pense d'ailleurs peut-être qu'il est allé voir Fernando et que Fernando lui dit, tu rêves, mon vieux, là-haut, et tu te crois où? C'est ce que je disais, c'est les. J'aime les défenseurs. J'avais envie de porter un défenseur ce week-end, mais j'aime aussi ce qu'a fait Weber, quoi. Ça m'a rappelé ce que faisait Schumacher, cette capacité à aligner des temps quand il fallait et la constance qu'il a mis.
Et de l'intelligence, beaucoup d'intelligence dans sa course.
Oui, beaucoup d'intelligence. Même si je pense que pour une fois, c'est une stratégie de Red Bull qui pour une fois a été payante, ce qui est pas forcément tout le temps le cas puisque Red Bull a souvent été naïf dans ses stratégies. Il faut de grands stratèges. C'était la force du duo Brown-Schumacher. C'était un très grand stratège, Ross Brown, avec un pilote qui était peut-être le seul capable de mettre en place la stratégie de Brown. C'était une harmonie entre la stratégie et le pilote. Et là, on l'a retrouvé avec Weber.
Sa quatrième victoire. Hein.
Ouais.
Dans un championnat qui est quand même extrêmement disputé, on peut quand même se douter que le champion du monde, il sera pas à 8 victoires cette année. Non. Lui, il en a déjà 4. Il reste plus que 8 courses. Donc, au classement. Eh bien, au classement du SAV, naturellement, ça se resserre. C'est pas une surprise. Puisque Vettel est toujours devant, mais Vettel a 164 points, tandis que Alonso, qui est deuxième, en a 156. Il y a que 8 points d'écart. Weber est troisième à 147.
Il remonte bien, Weber.
Il remonte bien, puisque, un peu comme dans les vrais classements, c'est les McLaren qui dégustent,
hein. Disons que le vrai problème, c'est que Weber, il est bien classé quand il gagne, mais quand il gagne pas, il est souvent mal classé. Ouais. Il est souvent cinquième, sixième, et il marque pas de gros points. Il n'est pas régulier, finalement, dans les points du SAV.
Donc, Hamilton est à 140 points et Button est à 121. Donc, lui, il décroche un tout petit peu. Au classement des équipes, Red Bull est toujours devant, 311 points. Devant McLaren, 261. Ferrari remonte un peu, parce qu'ils sont à 225. Alors là où ça presse bien, hein, c'est Mercedes qui est à 128. mais surtout Renault qui est à 116. Mmh. Donc plus très loin. Dans l'autre classement, Mark Webber est devant, 161 points. Lewis Hamilton a laissé la première place, est à 157 points. Sébastien Vettel est troisième avec 151. Jenson Button est quatrième avec 147. Et Fernando Alonso, qui était si loin il y a encore deux semaines, est à 141 points, c'est-à-dire à 20 points du premier. Mmh. Chez les constructeurs, Red Bull est à 312 points. McLaren 304, Ferrari 238, Mercedes 132 et Renault 106.
Non, c'est Peugeot 106.
Je ne préfère rien dire.
Désolé.
Force India est à 47, mais Williams est déjà à 40. On va passer au fait marquant de la course.
Oui.
Donc pour le Grand Prix d'Allemagne, vous vous souvenez, c'était un fait marquant un peu spécial, puisque c'était plus un sondage d'opinion qu'un fait marquant. Alors, faut noter hein, que donc la pole qui se joue à 2 millième, dont on se disait que personne ne voterait. Oui. Mais évidemment, il y a deux petits malins qui ont décidé de voter pour.
Les deux, on a leur nom. Alors, on va féliciter pour cette audace. On va féliciter Maël. Bravo, Maël. Et on va citer quelqu'un que je ne connais pas et dont, à qui on souhaite la bienvenue. On va féliciter Vertex.
Et c'est sûr, ils ont juste voté pour être cités.
C'est peut-être ça. Et ben voilà, vous avez gagné.
Et donc, les deux opinions qui s'opposaient, Ferrari qui se relance en désignant un numéro 1 en piste a recueilli 18% des votes, 5 votes.
Oui.
Et il faut dire que pour beaucoup, ce qui s'est passé est un énorme scandale. Et donc Massa, qui se fait voler sa victoire par son écurie, a récupéré 75% des votes avec 21 votes.
Ouais.
Alors, pour cette semaine, qu'avons-nous ? Alors, je crois que... Il y en a qui nous ont donné des faits marquants.
On a un auditeur qui nous a proposé un fait marquant. La priorité aux auditeurs.
Bien sûr, oui.
Donc on va, c'est une proposition de Bilot qui nous dit la pénalité de Vettel qui ruine sa course.
Ouais.
Donc ce sera le premier choix. Ensuite c'est à moi. Donc,
c'est à toi.
Je vais mettre l'abandon de Lewis Hamilton.
Ah ouais. Je vais dire qu'est-ce que je dis en troisième. Oh, beaucoup. J'hésite entre deux. Oh, je vais dire quand même le dépassement musclé entre Barrichello et Schumacher.
Voilà. Hein, vous pourrez. Généralement vous le faites avant même qu'on vous le dise dans l'émission. Mais oui. Ceux qui viendraient pas sur le site, bon, c'est très rare, vous pouvez aller sur le site www.savf1.fr.
Passe au drive-thru.
Yes, drive-thru.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Alors.
On va commencer par les drive-thru des auditeurs, on en a reçu.
Bien sûr, oui.
Je te propose de faire celui d'Alonso.
Donc celui contre Alonso a été cité par Globen.
Quand il gagnait contre Schumi, je ne l'aimais pas. Chez McLaren, ma révulsion pour Hamilton l'a fait remonter dans mon estime. De retour chez Renault, je l'appréciais, à tel point que j'étais content de sa victoire à Singapour en 2008, du moins sur le coup. Après son arrivée en fanfare chez Ferrari et sa victoire à Bahreïn, mon cœur de tifosi s'est dit que c'est le pilote qu'il faut à Ferrari. Mais depuis, il ne cesse de me décevoir. Plus que Schumi, il n'arrête pas de se plaindre, que ce soit contre son équipe ou contre les autres, comme le montre le récent épisode de la pénalité d'Hamilton. Ce pilote vexé d'être mis en concurrence avec son coéquipier a mis tellement la pression sur son équipe que celui-ci lui a fait cadeau d'une victoire qu'il ne méritait pas. Et contre Vettel, au Grand Prix de Hongrie, je me suis mis à être pour la première fois anti-Ferrari tant Alonso me dégoûte, à souhaiter que Vettel n'en fasse qu'une bouchée. Donc franchement que Ferrari fasse revenir Kimi qui me plaisait franchement plus avec son côté un peu je m'en foutiste mais qui lui ne se plaignait pas.
Je remarque ton changement de ton très enjoué quand tu as lu la phrase. Franchement, Ferrari rappelle Kimi. Je suis à la fois d'accord avec Globen, mais en même temps, pas d'accord. Je suis d'accord sous le sens où c'est vrai que Alonso a un comportement ces derniers temps qui il met beaucoup beaucoup de pression sur l'équipe, etc. En même temps, comme tu l'as dit, Globen, on l'a aussi engagé pour ça, quoi. On l'a aussi engagé pour être un anti-Kimi. Faut quand même se rappeler ce qu'on disait de Kimi. C'est que Kimi faisait pas d'efforts pour l'équipe, etc. Alors oui, on a le total opposé, un mec qui veut mettre la Scuderia à sa botte, mais en même temps, ça fait depuis 2006 qu'on demande ça, qu'on attend que la Scuderia se reprenne un peu en main, se réorganise un peu à l'image de ce qu'était la Scuderia à l'époque de Schumacher, avec un leader fort qui imprime le rythme. Alors c'est vrai qu'il le fait, mais je pense aussi que s'il le fait, si c'est aussi visible, et si ça se ressent autant auprès des fans de la Scuderia, et auprès de tout le monde, je pense que c'est aussi parce que en face on a une direction de Ferrari qui je pense que jamais Alonso n'aurait mis autant de pression sur la Scuderia si ça avait été Ross Brawn et Jean Todt qui étaient à l'équipe qui étaient à la tête de l'écurie.
En même temps, je m'y attendais. Souvenez-vous, en début de saison, j'avais dit, souvenez-vous, j'avais évoqué le parallèle avec Renault. Vous vous souvenez quand les choses allaient mal, le premier à balancer sur l'équipe, c'était quand même Fernando Alonso. Et je me disais, mais attendez, ce comportement-là, je savais qu'il allait pas changer, hein, Fernando Alonso en allant chez Ferrari. Sauf que je me disais, oui, mais attendez, là, on est une équipe qui est capable de virer Alain Prost quand il dit que la voiture est un camion. Donc,
quand Prost insinue que piloter sa voiture, c'est comme piloter un camion, il se fait débarquer. Oui. Là, aujourd'hui, le problème, c'est que quand Alonso fait des remarques, bon, même s'il y a pour le moment aucune remarque qui est à la mesure de ce qu'a pu insinuer Prost, mais quand il met autant de pression sur son équipe, le simple fait qu'on le laisse faire, c'est qu'il y a un gros problème de management au sein de l'écurie.
C'est même étonnant qu'il agisse comme ça, parce que une écurie vieille comme Ferrari, bon, même si on l'a déjà dit, les gens changent, donc Ferrari d'aujourd'hui, c'est plus le Ferrari même d'il y a 10-15 ans. C'est surprenant qu'il se fasse pressé comme ça et qu'ils disent rien. La question, c'est est-ce qu'il y a bien un moment où ils vont dire Fernando, tu la fermes et tu roules, quoi.
Mais ferme ta gueule.
Non, mais c'est vrai.
Mais voilà, il y a personne aujourd'hui qui est capable. Et ce que je trouve aussi, c'est un peu étonnant, c'est que j'étais surpris moi de voir que Fernando finalement est arrivé avec assez peu de monde de son ancien entourage chez.
Il avait pas récupéré son ingénieur de course
ou chez McLaren. Voilà, je crois qu'il a récupéré un ingénieur de course de Ferrari et pas le sien.
Oui.
Voilà, donc alors que c'est vrai que quand Schumacher est arrivé, très rapidement, il a fait venir Rory Byrne et Ross Brawn. Donc il a grosso modo, comme je disais, quand tu veux faire une révolution, tu l'as fait à plusieurs. Et il est venu à plusieurs. Il a pas eu besoin de gueuler puisqu'il avait déjà des relations avec des mecs qui avaient déjà un pouvoir de décision. La Fernando, il a de relations avec personne au sein de la Scuderia. Bon, il a de bonnes relations avec l'équipe, mais il n'a pas de relations pour pouvoir influer, parce que c'est un pilote qui a du poids sur une écurie, qu'on aura toujours, parce que ça fait partie de cette catégorie de pilotes qui sont des pilotes qui ont aussi conscience de ne pas être que des pilotes et d'avoir aussi d'autres responsabilités au sein d'une écurie et d'autres devoirs et d'autres besoins à avoir auprès de l'écurie. Mais ça, ces connexions-là, il les a pas. Et c'est un peu surprenant qu'il les ait pas fait. Et je pense que peut-être l'année prochaine, peut-être qu'on verra déjà des mecs qui ont travaillé avec lui chez Renault ou chez McLaren arriver. Maintenant, je pense que c'est vrai que son parcours chaotique, le passage de Renault, où ça s'est pas forcément fini en bon terme la première fois, le passage chez McLaren, où il a pas forcément gardé que des amis, où son cercle de connexion a pas forcément bien marché, le retour chez Renault qui s'est pas forcément non plus très bien passé, où Renault n'a pas été au top de sa forme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un pilote qui n'a pas les mêmes connexions que pouvait avoir un Schumacher et qui donc peut pas aussi bien travailler alors qu'il est dans une équipe qui veut lui donner les moyens et qui va sans doute se battre chaque année pour le titre ou pas loin. Et il lui manque juste ça. Il faut qu'il se tisse ses relations chez Ferrari. Et c'est vrai que peut-être gueuler dès sa première année, c'est peut-être pas le meilleur moyen de se mettre les ingénieurs dans sa poche.
On a un deuxième drive-through de Bilot.
Oui, un drive-through de
Bilot. Les commissaires pilotes.
Oui, alors Bilot qui nous dit...
On pensait que du fait de leur expérience de la course, ils allaient être plus sages dans les décisions des commissaires. Force est de constater que c'est pire que les années précédentes. Non seulement ils ne pénalisent pas tout le temps les pilotes en vraie infraction, mais en plus, on a encore droit à des pénalités injustes. Schumacher a reçu 25 secondes de pénalité après Monaco pour un dépassement quand la safety car est rentrée, là où les fautifs de Valence n'ont reçu que 5 secondes pour avoir enfreint une autre règle sous safety car. Hamilton a enfreint la règle en Malaisie et au Canada, il n'a eu qu'une réprimande à chaque fois. En Chine, son comportement avec Vettel était dangereux et méritait une sanction. Vettel a enfreint le règlement en Hongrie, une faute moins grave que celle d'Hamilton. Il a eu un drive-through. Qu'il l'ait fait exprès ou non, son action derrière la safety car n'a rien de répréhensible et sa pénalité est totalement injuste. Bref, deux poids deux mesures. Encore une fois, le système de pilote-commissaire est un fiasco pour l'instant.
Alors, c'est vrai que quand on a appris qu'il y aurait des commissaires pilotes, hein, des stewards pilotes, on était soulagés. Parce que souvenez-vous, l'an dernier, ce qu'on espérait, c'était moins de pénalités. L'an dernier, je me rappelle, on voulait moins de pénalités parce qu'on trouvait que les pénalités sortaient quand même super facilement.
Plus d'humanité quand même dans la gestion, plus de une gestion un peu plus compréhensive.
Et voilà, plus compréhensive du fait que bah parfois il y a des effets de course sans forcément volonté justement d'aller contre le règlement.
Et puis c'était dans un contexte de relation avec la FIA où on espérait que la présence d'un pilote permettrait aussi à la FIA de ne plus se servir des pénalités contre les pilotes comme un moyen de sanction de faits extra-sportifs. Voilà, comme là par exemple, sans doute, le Conseil mondial pour Ferrari, on sait très bien que c'est en partie aussi un outil de pression sur la Scuderia en leur disant, bon, vous calmez un peu vos ardeurs sur les critiques, etc. Une manière de sanctionner.
Non mais on voulait du calme, et finalement ce qu'on a cette année, c'est du bordel.
Oui.
Aujourd'hui, quand un pilote fait une sanction, il est quasiment impossible de dire, avant que les commissaires la donnent, quelle pénalité va avoir le pilote. Que ce soit du 25 secondes, du 5 secondes, en fonction de deux pilotes peuvent faire la même chose. En effet, le bilan le signale très bien, ils n'ont pas la même sanction. On a même des choses qu'on n'avait jamais vues, hein, comme les 5 secondes en rafale, alors que deux semaines plus... je suis tout à fait d'accord avec Bilot, c'est... Ce qu'il nous faut, c'est un vrai cadre, quoi, qu'on sache. Mais évidemment, c'est tellement au cas par cas que on peut pas faire pour chaque action telle pénalité. Mais il y a quand même certaines actions contrevenantes, on va dire, qui reviennent plus souvent que d'autres. C'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de choses sur les safety cars. On sait que là où il peut y avoir des choses, c'est sur les contacts entre pilotes. Enfin, je veux dire, les fois où on va à l'encontre du règlement, il n'y en a pas non plus toutes les 30 secondes, hein, en F1.
Ce qui déjà décrédibilise le système, c'est tout simplement le fait qu'on ait plusieurs pilotes différents.
Oui.
Voilà. Je me rappelle en début de saison, quand c'était Alain Prost le premier à Bahreïn, et il avait été question qu'Alain Prost fasse toute la saison. Et moi, je trouvais que c'était pas forcément une bonne idée qu'on donne à un pilote un rôle permanent, puisque il pouvait avoir une interprétation particulière, serait resté sur toute la saison.
Voilà, sans qu'il y ait un pilote pour toute la saison, pourquoi ne pas avoir un commissariat de pilotes? Avoir peut-être 5-6 pilotes commissaires qui feraient toute la saison.
Je pense justement.
Et essayer d'avoir une unité.
Je pense justement que le problème, c'est que, on a peut-être pris le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on a cherché à demander à des pilotes de donner une interprétation du règlement en fonction de leur expérience. On aurait peut-être pu demander à un ensemble de pilotes totalement hétérogènes, venant de sports divers, venant des Christensen, on a parlé de Danny Sullivan la semaine dernière, des pilotes champions du monde comme Alain Prost, comme Mansell, comme Damon Hill, des pilotes pas champions du monde comme Warwick. Des pilotes d'époques différents, on aurait pu réunir ces pilotes, et plutôt que de leur demander de entre guillemets de réagir et d'interpréter un règlement qui existe, ce qui fait que par exemple Damon Hill dit qu'il veut plus le faire, ou que Orval dit qu'il ne veut pas le faire parce que c'est pas son boulot, peut-être de leur demander de leur dire voilà, au début de la saison, aidez-nous à faire ce règlement. Vous qui êtes pilote, vous qui pensez comme des pilotes, aidez-nous à construire ce règlement. Comme ce que je disais sur les consignes d'équipe, si on avait fait le règlement sportif sur les équipes, en demandant à des anciens ingénieurs, aidez-nous à anticiper les cas de consignes d'équipe, les cas de triche, etc. Je pense que si on demandait un peu plus aux pilotes d'être à l'origine du règlement, pas leur donner tout pouvoir de faire le règlement, sinon ça deviendrait n'importe quoi. On leur disait, voilà, aidez-nous à faire un règlement qui tienne la route, qui soit stable et qui nous donne des armes, nous, contre les mauvais comportements, etc. Et en même temps, qui permettent aussi de laisser des libertés aux pilotes. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a un règlement que les écuries interprètent, parce qu'elles savent très bien que l'interprétation de la FIA va varier en fonction du commissaire.
Il faut de la clarté et de l'unité.
Là, aujourd'hui, c'est une bande de vieux barbons qui fait un règlement et qui demande à d'autres, des professionnels de la piste, de se dépatouiller pour l'interpréter. C'est pas comme ça fonctionne, c'est pas possible. Donc je vais en profiter, si ça te dérange pas, Shinji, pour directement rebondir sur mon drive-thru, puisque c'est lié à la FIA.
Bah vas-y, oui.
Là, j'avoue que ce week-end, j'étais particulièrement énervé par le drive-thru qu'on a infligé à Robert Kubica. Quelle est l'utilité d'aller infliger un drive-thru à un pilote qui est déjà à un tour? Le pilote, il vient déjà de perdre un tour. Il a sa voiture qui fonctionne peut-être moins bien, en tout cas qui est pas optimale. Et en plus, derrière, tu lui fais perdre 30 secondes en lui demandant de passer au stand. Tu lui flingues sa course. Et plus que lui flinguer,
c'est pas de sa faute.
Tu lui flingues le moral.
Alors moi, drive-thru, un peu comme la semaine dernière, je vais faire un drive-thru un peu à l'écart du Grand Prix, parce que bon, on a déjà beaucoup mis sur beaucoup de choses pendant le Grand Prix. Mais c'est quand même sur quelque chose dont on a déjà parlé, dont tu as déjà parlé, c'est aussi un drive-through contre la FIA, et c'est par rapport aux nouvelles équipes. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est le 3 août, et qu'actuellement on ne sait pas encore quelle équipe va être choisie pour l'an prochain, s'il y en a une. Il est évident que les projets, les quelques projets, donc en gros il y a Villeneuve Racing et Epsilon Scuddy, hein, c'est quasiment les seuls qui restent, ont certainement déjà mis en place des projets, mais bien évidemment tant que la FIA ne les choisit pas, il est évident qu'ils vont pas aller à fond dans un projet alors qu'ils sont pas sûrs d'être choisis. On est en train de nous dire oui, vous comprenez, on fait attention parce qu'on veut pas, comme cette année, un nouveau cas HRT. Non mais attendez, comment vous voulez que l'équipe, s'il y en a une qui soit choisie, elle fasse pas comme HRT? Ne serait-ce que, imaginons, soyons fous, hein, que l'équipe soit choisie cette semaine, ça fait cinq mois pour préparer la voiture. C'est n'importe quoi. Je me dis que si le choix avait été fait par exemple dès juin, peut-être que Hart serait toujours là et peut-être que Hart aurait été choisi par exemple. Donc c'est un peu il y a un discours et en même temps la FIA fait son contraire. De à tel point qu'on se dit que peut-être l'équipe ne sera même pas choisie pour 2010, mais même pour 2011. Alors là, on rentre dans l'excès inverse. C'est que les équipes, elles vont se préparer pour 2010, dépenser un fric monstre pour une voiture qui ne roulera pas, donc perdre un fric monstre dans une voiture 2010 pour ensuite préparer une voiture 2011. C'est ubuesque. Mmh. Ou alors, dans ce cas-là, vu que la décision est déjà très tardive, pourquoi ne pas faire ce qu'on n'a pas autorisé pour USF1? C'est dire, par exemple, imaginons à Epsilon Scuddy, l'an prochain, vous rentrez en F1, mais vous n'êtes pas obligé de participer à toutes les courses. Pourquoi pas, imaginons, on leur dit, vous ne participez qu'aux courses européennes.
Mais la semaine dernière, on prenait l'exemple, on avait parlé dans les news brièvement de BMW qui s'investit en WRC. Parle bien Mini, ils vont faire quelques courses en 2011. Mini, ils vont faire quelques courses en 2011, et après, ils vont s'engager sur toute la saison 2012. Donc, ils ont un problème de développement.
Mais c'est quelque chose de très banal en F1. Enfin, en rallye. Donc voilà, j'ai très peur, on est déjà début août. Alors déjà qu'ils ont mis un temps pas possible pour se décider de Pirelli, alors que c'était quand même quasiment les seuls candidats.
Pour le moment, je pense que c'est surtout des si ça prend du retard, c'est à cause de comment ça s'appelle, de lutte, de pouvoir, qui existent toujours, qui sont moins visibles qu'en 2009, mais qui existent toujours entre la FIA, la FOTA et Bernie Ecclestone. Ces problèmes-là ne sont toujours pas réglés, malgré les grandes déclarations d'amour post-guerre apocalyptique en juin dernier.
Oui. Bon, c'était tout pour mon drive-through. On passe au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con. Quoique.
Alors, la question top opposition du Grand Prix d'Allemagne nous était proposée par Steph Core, qui vous posait comme question, quelle voiture hérita de son surnom sur le circuit du Nürburgring le 3 juin 1934 sur une décision d'Alfred Neubauer? Et vu que Shinji avait choisi cette question parce que c'est un type de question qui lui plaît beaucoup, oui. Shinji, as-tu l'explication?
Donc déjà, rappelons qui est Alfred Neubauer, pour ceux qui ne le sauraient pas. Alfred Neubauer, est le premier directeur d'équipe de l'équipe Mercedes. Il a été nommé dans les années 20. Alors, c'est bien simple. Avant lui, il n'y avait pas de poste de directeur d'équipe. Quand il a été nommé, c'était même assez mal défini, ce qui paraît étonnant aujourd'hui, mais il a vraiment créé le poste. Et il est resté à la tête donc du département sport, même équipe de Mercedes, jusqu'en 1955 et le drame du Mans. Donc, près de 30 ans au service de Mercedes. Donc nous sommes en 1934, sur le championnat européen, qui est un ancêtre, on peut dire, de la F1, parce que c'est des courses de monoplace à l'échelle européenne. Et donc, Neubauer, qui est à la tête des Mercedes, présente donc la Mercedes W25, et le règlement du championnat européen imposait déjà un poids maximum de 750 kg. Donc bien évidemment, comme toutes les autres voitures, on amène la Mercedes à la peser.
La Mercedes qui était blanche à l'époque.
Qui était blanche, puisque, étant une voiture allemande, la voiture était blanche, puisque, rappelons-le, à l'époque, il n'y avait pas les sponsors. Donc, les couleurs des voitures étaient déterminées en fonction de leur nationalité. Oui. Donc, les Allemands, c'était blanc. Donc, Italie, rouge. Anglais, vert. Français,
c'est pour
bleu,
ça, par exemple, que la couleur de Lotus ou la couleur de Jaguar, c'est le vert.
C'était vert.
Ah, c'est vert. La couleur historique, parce que à l'origine, c'était les couleurs anglaises.
Donc, pesée de la voiture, classique. Sauf que la voiture, elle fait 751 kilos. et il l'avait allégé au maximum. Hein. Mm. Donc, comment faire pour gagner ce kilo, ce kilo en trop? Eh bien alors, Alfred Neubauer
a eu cette idée géniale.
Alors, il semblerait que le pilote Mercedes, hein, Manfred Van Brauchitz, si je n'écorche pas trop son nom, aurait en fait fait la remarque comme ça, mais presque pour rigoler, bah, on n'a qu'à gratter la peinture. Et Neubauer, il a dit, bah, banco. Et donc, les gens de Mercedes, pendant la nuit, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gratté la peinture de la Mercedes. Mmh. Et donc, le lendemain, ils avaient gagné ce kilo en trop. Donc, la voiture pouvait concourir. Qui dit plus de peinture, dit carrosserie. Et donc, qui dit carrosserie, dit aspect argenté. Et c'est donc ça, c'est les Mercedes qui héritèrent du surnom de flèche d'argent. Bien évidemment, elles ont gagné la course. Faut dire que ce sont des années très fastes pour Mercedes. Et c'est là qu'est née la légende des flèches d'argent. En allemand, ça se dit Silberpfeil, flèche d'argent.
Donc, nous avons eu plusieurs réponses. Nous avons eu exactement 6 réponses, dont 2 réponses sans question. Hein, donc, on peut déjà dire que Globen et Damien, qui ont bien répondu à la question, ne nous ont pas envoyé de question, donc ne peuvent pas défendre leur chance véritablement. Donc, nous avons, comme proposition, nous avons 4 questions. La première, qui est devenu le seul pilote hongrois de l'histoire de la F1, alias Zsolt Baumgartner.
Ouais.
Ensuite, quel pilote aurait dit de source peu sûre au 42e tour du Grand Prix de Hongrie 1995, mais avant ce putain de con?
Oh, mais non.
Je pense que c'est le de source peu sûre. Mettez pas ça dans vos questions. Ensuite, en 1989, Nigel Mansell gagna le Grand Prix de Hongrie. Mais de quelle position partait-il?
Ouais.
Enfin, quelle nouveauté introduisit Rose Brown à l'occasion du Grand Prix de Hongrie 1998?
Oh, bon.
Donc, j'ai dit, je te sens très motivé par ces questions.
Bah, écoutez, vu que là, vous allez avoir du temps, eh bien, pendant ce mois, vous allez nous chercher qu'est devenu Zsolt Baumgartner.
Ah. Et je vais même vous donner des petits devoirs en plus. Voilà, petites questions bonus. Ça vous donnera rien, mais voilà, c'est pour vous faire plaisir. Je vous poserai 2 petites questions en plus. Voilà, vous y répondez si vous avez envie. Il n'y a rien d'obligation. La première question, c'est sur quel circuit s'est déroulé le premier Grand Prix de Hongrie de l'histoire. Une deuxième question qui est un peu liée. J'aimerais savoir quelle était la particularité des 2 derniers pilotes sur la grille. Donc voilà. Donc c'est des petites questions optionnelles. Vous y répondez si vous avez envie. Pour la question proposée par Shinji, le vainqueur est,
oui,
roulement de tambour, Sato Kamikaze, qui remporte donc le droit d'être tiré au sort à la fin de saison. Il aura un petit bulletin spécial Grand Prix de Hongrie avec son nom dessus, être tiré et, oui, gagner un gros lot à la fin de la saison. Bravo Sato Kamikaze. Pour y répondre, vous connaissez la démarche. Il vous suffit d'aller sur le site du service après-vente de l'F1, hein, d'utiliser le magnifique formulaire dans la rubrique contact, avec comme sujet concours top top position. Vous nous donnez votre réponse à la question qui est la suivante, qui est devenu le pilote hongrois Zsolt Baumgartner, qui était présent en Formule 1 chez Jordan, on vous le rappelle. Et donc, vous nous envoyez votre réponse en n'oubliant pas de nous donner une question sur le Grand Prix de Belgique ou sur l'actualité proche du Grand Prix de Belgique.
Sur la Belgique et la F1, quoi.
Voilà, pour que nous puissions... pour que nous puissions choisir qui sera l'heureux élu de ce titre très convoité du vainqueur du top opposition.
Donc justement, puisqu'on parle de Belgique, c'est le prochain Grand Prix.
Ça sera la frite.
Dans 4 semaines.
Donc on fasse un pronostic.
Ah oui.
Fait que la dernière fois, on fait un attendu et un outsider. Surtout qu'en Belgique, les outsiders, l'année dernière, c'était un petit peu le cas, quoi.
C'est un circuit rapide, la Belgique.
Oui.
Alors, je pense que les Red Bull, quand même, devraient bien se comporter là-bas. Donc, je dirais quand même Vettel, parce qu'il va quand même pas vendanger une 4e course de suite. Hein. Et sinon, s'il devait y avoir un vainqueur surprise, et pourquoi pas Schumi à Spa?
Ah, la boucle serait bouclée.
Voilà, justement.
moi, je dirais justement parce que c'est un circuit rapide, j'aurais tendance à donner les Ferrari. Le gel des usines, même si il y aura des nouveautés, etc. Mais le gel des usines devrait nous permettre de retrouver la même hiérarchie. On l'a dit, les Red Bull ont été très fortes parce que Hungaroring, c'est un circuit très roulant et très tortueux, etc. Qui correspond bien à l'homogénéité de la Red Bull. Moi, je mettrais quand même une petite pièce sur Fernando Alonso. Et en outsider, allez, je vais être fou dingue. Je mettrai pourquoi pas Rubens Barrichello, allez, soyons fous.
Sur ce, on remercie tous nos partenaires. bien évidemment, comme d'habitude. Bon, même s'il n'y a pas eu de tour Mechatech, mais finalement, il n'y a pas eu de tour Dino non plus.
Oui, alors je devais vraiment le faire, et en fait, voilà, j'ai de la famille en ce moment à la maison, et c'est pas possible. Mais vous l'aurez, hein, promis, vous l'aurez.
Et tu avais une dernière petite chose à nous dire?
Bah oui, oui, avant de nous quitter, il est nécessaire de vous laisser sur cet instant de philosophie, cet instant inspiré par Steph Core, que nous remercions vivement pour sa proposition, qui met nos esprits en ébullition. Et on ne saurait vous quitter pendant cette émission. On dirait même pas au revoir. D'ailleurs, je crois que sur le dernier Grand Prix, j'ai coupé après le voilà. On vous laissera juste sur ces petites remarques, ces petites proverbes germano-finlandais qui dit que tant va la roue à volo qu'à la fin on passe à la caisse.